c'est pas évident.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Principe Actif pour ce 5e numéro de Prise d'Anthème. Donc toujours à l'espace jeune de la Madeleine, même principe. Des invités, des jeunes de l'espace jeune qui débattent sur un sujet donné, choisi, que vous pouvez nous suggérer d'ailleurs. Je vous invite à nous rejoindre même sur le plateau. N'hésitez pas à venir nous joindre, participer, poser des questions. On est ouvert, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, alors émission un peu particulière car nous avons invité des personnes de notre famille, de notre entourage, des tontons, des tatas, donc des gens d'ici et d'ailleurs.
Oui, bonsoir. Alors pour des gens, comme dirait Doucinia, d'ici et d'ailleurs, nous avons Brigitte qui vient du Sénégal, nous avons Leonardo de la Guinée-Bissau, nous avons Philly, Kankou, Maguette ainsi que Jetty qui viennent du Mali. Bien sûr, si j'ai mentionné leur nationalité et leurs origines, c'est pas pour rien. C'est parce que nous allons discuter de leur biculturalité. J'ai un peu de mal, c'est dur. Ouais. Et du coup, nous allons détailler ça en trois parties. La deuxième partie parlera des mélanges des cultures. La troisième partie parlera des enfants, de la double culture. Et en première partie, nous allons parler du départ, de l'arrivée, des objectifs, des repères, ainsi des choses, comment se sont déroulées. Jingle.
Vous êtes bien content que je sois là?
Que je sois, oh là là, putain, tu sais bien parler français.
Ça te va, toi, de vanner? Moi, je me comprends et c'est tout qu'est-ce qui m'intéresse.
Je vous ai compris.
Principe Actif, 102.4 FM.
Et nous sommes en direct, en live et en public, pour le coup, pour cette émission. Alors, je rappelle que cette équipe qui a réalisé cette émission, vous pouvez baisser le volume des casques juste au-dessus du câble en suivant votre casque. Pardon, on s'organise en même temps que nous faisons. Comme je disais, pour réaliser cette émission, nous sommes appuyés de l'Espace Jeune, bien entendu. D'une équipe, vous avez entendu Lionel et Dulcinea faire cette introduction, mais nous avons également Pierre dans cette équipe, Abdoulaye. Nous avons Sarah et Bayal qui nous rejoindront en cours de soirée. Ils étaient retenus par quelques obligations. Effectivement, cette émission est très particulière parce que nous le disions en préparant cette émission, c'est une émission où vous recevez les parents, les tatas, les tontons. Il y a un petit peu d'appréhension aussi de livrer votre travail auprès des proches. D'habitude, nous invitons des gens que nous ne connaissons pas avant, donc c'est beaucoup plus simple. Aujourd'hui, il y a cette petite appréhension qui est palpable auprès de certains jeunes notamment, c'est normal, tout va bien se passer, rassurons-nous. Nous nous entourons quand même d'une petite précaution, nous essaierons, comme je le disais, c'est entre proches que va se faire cette émission, nous essaierons de ne pas donner de dossier, d'éléments gênants ou en tout cas d'éléments qui pourraient poursuivre notamment les jeunes par la suite. Nous essaierons de faire ça bien entendu dans le respect de chacun. Pour commencer cette émission, vous avez donc parlé des invités que nous avions avec nous. Je vais me retourner vers eux. Bah, tout d'abord, bonsoir à vous et puis bienvenue dans nos canapés de cet espace jeune. La première question, et Lionel l'évoquait au démarrage, vous êtes né en Guinée-Bissau, au Sénégal ou au Mali. Vous êtes arrivé sur Évreux. Est-ce qu'on pourrait faire déjà un petit tour d'horizon de nos invités pour savoir un petit peu à quel âge est-ce que vous êtes parti de votre pays d'origine et puis pour quelles raisons, quelles étaient un petit peu les motivations de ce départ. Oui, alors Philly.
Oui.
Alors
je suis venu en France, j'avais 18 ans.
18 ans.
Oui. Et j'étais mariée. C'est mon mari qui m'a fait venir ici.
D'accord. Votre mari était déjà sur Évreux, oui, ou en France?
Non, à Paris.
À Paris. Mmh. Et il vous a fait venir donc sur Paris au démarrage?
Sur Paris, oui.
D'accord.
J'étais à Montreuil.
À Montreuil. Mmh. Très bien. On fait un petit tour et puis on reviendra un petit peu sur comment ça s'est passé. Maguette, alors vous, du coup, quand est-ce que vous êtes partie du pays d'origine? À quel âge? Quel âge aviez-vous? Et puis pour quelle raison?
J'étais à 19 ans quand je venais ici. J'étais mariée aussi.
Votre mari était en France aussi?
Oui, il était là, oui.
Très bien.
J'étais à Beauvais, dans l'Oise.
À Beauvais, oui. D'accord, vous étiez arrivé sur, sur Beauvais. Très bien. Nous poursuivons notre tour avec Cancou. Pareil, même question qu'aux autres. Oui, à quel âge êtes-vous parti du pays d'origine et puis pour quelle raison?
J'ai quitté le Mali, j'avais 20 ans. Je suis arrivé direct ici à Normandie. J'habitais à Gaillon avant.
D'accord, bien dans le micro s'il vous plaît.
C'est mon mari qui m'a fait venir pareil, j'étais mariée.
Très bien. Et lui, il était déjà aussi sur Gaillon. Et vous êtes arrivé pour le rejoindre.
Voilà.
20 ans, c'est ça, vous me dites, vous aviez 20 ans.
Oui.
Très bien. Jetty, même question, j'ai envie de dire, c'est le même fonctionnement. Quel âge aviez-vous? Et puis, quelles étaient les raisons qui vous ont amené jusqu'ici?
Moi, c'est venu à 90, c'était 19 ans.
19 ans?
Oui, c'est mon mari qui m'a fait venir. C'est venu à Évreux, à Dret.
D'accord, à Évreux directement.
Ouais.
Leonardo, ou plutôt Mando Linwe, alors vous, j'imagine que c'est peut-être pour d'autres raisons. À quel âge vous aviez et qu'est-ce qui a fait d'arriver en France?
Bon, en France, je suis arrivé en 87, c'était pour passer les vacances.
Vous aviez quel âge?
En 87, j'avais 27 ans.
Très bien.
Un peu moins de 27 ans, avant de faire 27 ans, je suis arrivé, je suis retourné au Portugal. Une année après, la France m'a captivé, je suis retourné, arrivé en 88 et jusqu'à présent. Voilà.
Très bien. Brigitte.
De la Guinée-Bissau.
Venant de la Guinée-Bissau, ok.
Voilà.
Brigitte.
Moi, je suis arrivée petite, j'avais 9 ans, donc je n'avais pas d'objectif, je n'ai pas choisi de venir.
Vous avez suivi vos parents peut-être?
Oui, ma famille, ouais. Voilà.
Et alors vos parents, est-ce que vous savez pour quelles raisons, enfin quel était l'objet
En général, ils ont tous le même but quand ils viennent en Europe, c'est chercher une vie meilleure, avoir un travail et pouvoir aider la famille qui est là-bas. Donc,
Est-ce que c'était du coup à travers le fait d'arriver en France, et bien, tout le monde peut prendre la parole, hein, n'hésitez pas surtout, est-ce que il y avait une idée de vie meilleure, comme le disait Brigitte, est-ce que c'était avoir d'autres conditions, une meilleure vie qui était l'objectif pour tout le monde ou pas?
Bon, moi quand je suis parti de la Guinée-Bissau pour Portugal, c'était pour pouvoir continuer l'école. Et finalement, la situation, ça ne m'a pas permis. Je suis venu en France à l'invitation de ma sœur, ma grand-sœur qui habitait déjà à Évreux. Je suis arrivé, j'ai compris la vie des deux pays, le Portugal et la France. Et j'ai dit, pour m'en sortir, malgré un peu de décalage culturel, j'ai dit, je vais embrasser la France. Je suis revenu, je me suis installé à Évreux. Jusqu'à présent, je n'ai pas l'argent, mais... Dieu m'a donné une belle famille quand même. Voilà. J'ai une superbe famille. Donc, je peux dire que je suis comblé. Pour l'instant.
Très bien. Vous aussi, mesdames, c'était pour une meilleure vie ou c'était pour se rapprocher, et notamment vos maris qui vous ont précédé, qui étaient en France, c'était quoi? C'était aller chercher une meilleure vie? Comment ça a été vécu d'ailleurs?
Moi, personnellement, c'était pas pour chercher une meilleure vie parce que je savais même pas où j'allais exactement. Mon mari m'a fait venir, je suis venue, j'ai découvert la France. Mais je n'avais pas cette idée que je dois aller en France, c'est meilleur et tout. Non, 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 non.
Vous suiviez?
Voilà, je suis venue, on m'a dit de venir, je suis venue, c'est tout. Au départ, c'était ça.
Très bien. Et vous, mesdames, c'est pour les mêmes raisons ou c'est pareil? D'accord. Vous... Oui, Dulcinéa, tu voulais prendre la parole? Non, tu te caches.
Non.
Sur cette notion de culture, Leonardo, vous disiez, il y avait un fossé culturel venant de Guinée-Bissau, qui est une ancienne colonie portugaise, hein, tout simplement. Donc il y a une culture portugaise, notamment en Guinée-Bissau, relativement importante. Vous avez fait malgré ça le choix d'arriver en France. Culturellement, est-ce qu'il y a des barrières culturelles? Est-ce que culturellement, dans la façon de vivre, dans les repères, est-ce qu'il y a vraiment des choses difficiles quand on vient d'ailleurs et qu'on arrive ici pour le coup? Est-ce qu'il y a des choses vraiment, et en l'occurrence quoi en particulier?
Bon, si on peut utiliser la langue comme déjà quelque chose qui fait partie de la culture.
Complètement, oui, oui.
Voilà, la langue déjà, le principal. Parce que chez nous, par exemple, on commence à apprendre le français à partir du collège. C'est la langue nationale de Guinée-Bissau, c'est le créole bissau-guinéenne. Et puis, il y avait le portugais comme la langue officielle. Et dès qu'on arrive au collège, là, on commence à apprendre le français. Et le français, bon, disons que c'était basique. Et moi, comme j'ai toujours choisi, parce qu'il y avait une option d'apprendre le français et l'anglais, et compte tenu qu'il y a pas mal de ma famille qui est au Sénégal, parce que Guinée-Bissau et Sénégal, ce sont des pays, on l'appelle même les pays frères, et moi j'ai dit tout de suite, bon, pour la nécessité de communiquer avec ma famille qui est là-bas, j'ai embrassé le français très tôt. Bon, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Donc, c'est la première barrière. Et quand on sait que, par exemple, bon, je peux dire que les pays colonisés par la France, ils ont beaucoup plus de chances que nous. Parce qu'il n'y a pas d'imposition, ils vous obligent pas, il y a la liberté. Par exemple, là, je peux parler pour mon nom de famille. On m'appelle Gomez, je suis un portugais. Leonardo, c'est encore portugais. Donc, ce qui fait que je vois, par exemple, les autres immigrés qui viennent du Sénégal, par exemple, il y a pas mal qui ont toujours gardé leur nom de famille de base, le nom africain.
Oui, parce que
chez nous,
voilà, en introduction, je le disais, parce qu'on a eu une discussion avant l'émission, et quand je vous ai demandé votre prénom, votre fille qui fait partie de l'équipe m'a dit bon, bah, Leonardo. Et puis quand on échange ensemble, vous me dites Mandolindwe. Et du coup, il y a cette notion, la culture d'origine, vous appelez Mandolindwe. Et puis il y a un changement au bout d'un moment qui s'opère, qui portugaisise votre nom, comme on pourrait dire. C'est pas un premier choc culturel quand même, au bout d'un moment, de se dire qu'il y a une espèce de transformation?
Oui. Au début, les Portugais, ils ont une force d'aliénation. Parce que moi, en Guinée-Bissau, je voyais même pas la différence qu'on m'appelait Leonardo ou Mandolindwe. Plutôt quand j'étais plus jeune, je préfère qu'on m'appelle Leonardo au lieu de Mandolindwe. Pourquoi? Parce que, voilà, et je me sentais un peu plus à l'aise qu'on me dise Leonardo. C'est le synonyme d'être civilisé, comme il disait là-bas. Parce que chez nous, il y a des indigènes. Et moi, forcément, je voulais pas faire partie des indigènes. Et j'ai eu la chance que pas mal de gens de chez moi n'ont pas eu. Parce que tôt, on m'a envoyé à la capitale avec mon oncle pour étudier là-bas. Donc, tout de suite, je suis devenu Leonardo Gomez. Je disais même, je suis un Majac, peut-être pour vous, le Majac ne dit rien, mais la plupart, bon, ils savent que Majac de la Guinée-Bissau et du Sénégal. Et quand on me disait que tu es Majac, je dis oui, je suis Majac, mais je suis un Majac filtré. Seulement dans le sens de montrer ma différence par rapport aux autres. Vous voyez, mais plus j'avançais dans la vie, bon, le peu d'études que j'ai fait, j'ai vu que je me suis dit, qui je suis? C'est la question que je me suis posée. Et dès que je commençais à me dire, moi, je suis devenu culturellement un bâtard, je dis non, il faut que je cherche mes origines, c'est ma force. Et voilà, j'ai revendiqué le nom de Mandolindwe.
Donc vous, en fait, avant même d'arriver en France, vous avez déjà ce décalage culturel?
Exact.
Et dû à quoi, en fait, exactement?
Qu'est-ce que je dis? Le déclic, c'était 1977. J'ai vécu toujours en ville jusqu'à 77. Je suis parti à l'île de Jata, en Guinée-Bissau, où je suis né. On avait des groupes. Nous qui sommes de Bissau, on est parti là-bas. Quand on arrivait pour jouer le foot, ils nous disaient, voilà, les Majac de Bissau. Bissau, c'est la capitale de Guinée-Bissau. Et les Majac de Jata. Après, je commençais à me poser des questions. Mais moi, je suis un Majac comme eux, pour qu'ils nous disent Majac de Bissau. Bon, d'un coup, ça ne m'a pas fait grand-chose. Arrivant la nuit, excusez-moi ma fille, mais en arrivant la nuit, il y avait la soirée. On était là, jeunes garçons-filles. Et les filles de Jeta, ils ne voulaient pas danser avec nous. Ils dansaient avec des garçons du village. D'un coup, je me posais la question pourquoi. Et à une, au moins, qui me connaissait à Bissau, me dit, mais vous, des gens qui viennent de la capitale, on les prend pour des gens supérieurs. On a peur. J'ai dit, mais on est des égaux. Elle me dit, non, c'est pas pareil. De là, de retour à la capitale, j'ai appelé mes copains, je lui ai dit, bah, attendez là, nous, cette différence-là, est-ce que vous l'acceptez? Moi, je ne l'accepte pas. On m'a dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Eux, ils nous traitent comme ça, vous êtes impolis. vous êtes mal élevé. Parce que nous, bon, aujourd'hui, on rapproche nos enfants pas mal des choses, quoi. La mentalité qu'ils ont, on n'aime pas. Ils ouvrent, pardonne-moi le terme, on dit qu'ils ouvrent souvent la gueule par rapport aux parents. Et chez nous, un parent, c'est un parent. Il a tout le temps raison, même s'il n'y en a pas. Et si tu dois lui dire qu'il n'a pas raison, il faut chercher des termes. C'est pas dire non, papa, tu mens. Ça, on ne le fait pas. Mais nous, la capitale, à peu près, on faisait la même chose. Bon, de là, on a créé une association, de là, des jeunes, pour voir si on peut être récupéré par le village, et en même temps, récupérer les gens du village par rapport à nous. Et on a réussi. Et de là, j'ai tout de suite compris que, voilà, ma place, elle est là. Je suis divisé culturellement, mais quand même, quand je suis en face de vous, par exemple, monsieur l'animateur, j'aimerais bien vous donner quelque chose de moi.
Mais c'est aussi cette richesse d'avoir plusieurs cultures. Enfin, vous disiez tout à l'heure, je suis divisé. J'aurais presque envie de dire, vous êtes multiplié. Plutôt que divisé. Enfin, voir le côté positif le terme, de ces différences culturelles.
Le terme, je te permets. C'est, voilà, multiplié, oui. Comme vous le dites.
Mais Brigitte. Oui, je vais juste rajouter par rapport à ce qu'a soulevé Leonardo, par rapport au fait qu'en Afrique, les gens qui viennent des villages et ceux qui viennent des capitales, enfin, moi je viens du Sénégal, j'ai pas grandi là-bas, mais je vois comment ça se passe entre les Sénégalais en France, ceux qui viennent de Dakar et ceux qui viennent des villages comme Fouta ou même la Casamance. Les gens de Dakar se croient en général supérieurs à eux, parce que pour eux ils pensent qu'ils sont plus civilisés qu'eux. Mais c'est quoi une civilisation pour eux? Parce que c'est le fait de vivre en ville, avoir quelques immeubles, ils ont une meilleure. Enfin, pour eux, ils ont une meilleure condition de vie. Donc, tu viens d'un village, tu n'as pas accès à l'électricité, tu n'as pas de télé, tu n'as pas de radio. Donc, du coup, tu es un culte, tu n'es pas civilisé. Donc, c'est un problème, en fait, qui est général hein, un peu partout en Afrique.
Mais pour aller un peu plus loin, j'ai envie de dire, nous avons là, régionalement, le même problème avec la Seine-Maritime. Enfin, voilà. Il suffit d'aller en voiture à Rouen et se rendre compte qu'il y a ce côté-là un petit peu de condescendance de certains, sous prétexte que la ville est un peu plus grande. Et puis Paris, c'est un peu la même histoire. Quand c'est souvent ce qui est reproché aux Parisiens, c'est de vivre sur une planète Paris. Mais à côté de ça, on peut regarder notre département juste à côté, qui est l'Orne, sommes-nous bien réglo avec l'Orne au quotidien?
Pas tout à fait.
Voilà, c'est peut-être aussi des mécanismes aussi
naturels,
c'est abusif de dire ça, mais ce serait humain.
C'est propre à l'être humain.
Après, moi je dirais que ce genre de façon de penser, en fait, c'est des choses qui ont été apportées via les colonisations. Parce que je pense pas qu'avant tout ça, les gens pensaient comme ça. Peu importe d'où venait ou autre, je pensais qu'il y avait à peu près le même état d'esprit. Et c'est ce genre de colonisation qui ont fait que c'est devenu comme ça.
Comment ?
Oui, dans les pays africains. Je pense que c'est ça.
Excusez-moi.
Oui.
Bon, pardonne-moi, mais je ne suis pas complètement d'accord avec toi. C'est vrai, le colonisateur, il a fait un peu plus. Mais entre nous-mêmes, les Africains, il y a toujours une ethnie qui se joue plus supérieure que l'autre. Parce que même entre nous, par exemple, je parle par exemple des Manjaks.
Il y a des castes.
On a des cailloux, des jetas qu'on appelle terre, il y a des qu'on appelle les routes. On se chamaille comme la France, les Français se chamaillent avec les gens de la Belgique.
Les Normands, les Bretons.
Vous voyez, on se dit toujours, allez, tu dis, moi, tu penses que moi je suis un Naruto, quoi. Parce que pour nous, on disait que les routes, ils sont plus bêtes que nous. Or que. Enfin, c'est pas le cas, quoi.
Après, ça, c'est au niveau ethnique.
C'est des castes.
Après, au niveau, comment dirais-je, au niveau géographique, voilà, je parlais au niveau géographique. Niveau ethnique, je sais qu'il y a toujours eu des chamaillements entre telle ou telle ethnie ou autre, ça, je sais. Mais au niveau géographique, en fait, je parlais. C'était au niveau, par exemple, quelqu'un qui vient du village et quelqu'un qui vient de la capitale. Je pense qu'avant la colonisation, il n'y avait pas cette différence, par exemple. Après, les capitales, après, je pense pas qu'ils étaient comme ça. Après, voilà, faut me dire si c'est ça ou pas, parce que j'étais pas encore né à cette époque-là.
Mais, comme tu dis, hein, moi, pour toujours, c'est ça. Parce que quand on est à la capitale, franchement, nous, on habite là-bas comme des blancs. Comme disons, on dit, on va à l'école, on commence déjà à chausser, voir des belles chaussures, on le met et tout ça, quoi. Tandis que les gens du village, voilà, on dit qu'ils se débrouillent. Or que, si on regarde dans le contexte du problème, on dit qui est plus heureux, le gars qui est au village ou celui qui est en capitale?
Celui qui est au village.
Parce que moi, au début, je croyais que nous, en ville,
on était plus heureux.
Mais quand tu regardes les choses, quand tu pars au village, toi, d'analyser, hein, moi je suis un peu curieux, j'analyse, je regarde et je compare des choses. Je vois que vraiment les gens du village, ils sont heureux. Parce que là, si je compare ma vie, par exemple, avec un Français, un millionnaire, judiciaire. Malgré le peu que j'ai, ouais. Je vis avec ça. Ouais. Je ne pense même pas à la vie de quelqu'un d'autre. Vous voyez,
oui,
on est content avec ça. Et c'est ce qui se passe entre nous là-bas,
ouais,
oui. La capitale. Et j'ai constaté un problème parce que nous, on trouvait aussi plus intelligents. Mais quand tu pars au village, par exemple, on va à la chasse. Et on nous amène, oui. On nous emporte, on va courir derrière les animaux avec les chiens pour la chasse. Nous, avec nos chaussures et tout, on cherche où mettre les pieds.
Ah oui.
Tandis qu'au village, avec les pieds pattes, oui. Et tout ça, quoi, ils courent à l'aise.
Ouais.
Et à l'aise, hein, ils étaient de pas se poler largement. J'ai dit, mais finalement, l'intelligence, c'est quoi?
Effectivement.
En ville, oui, j'essaie d'éviter les voitures pour qu'ils ne m'écrasent pas. Mais au village aussi, ils savent où mettre les pieds. Mais tandis que moi, je perds du temps. Voilà.
Ouais, tout est une question de point de vue après.
Exact.
C'est important parce qu'en fait, on sous-entend à travers cet échange qu'il n'y a pas une culture qui serait meilleure qu'une autre. Il y a juste des cultures différentes et adaptées finalement au lieu où on vit ou au lieu où elle est pratiquée, cette culture. Justement, sur cette notion de culture, je vais me retourner vers ces dames. On avait la question au démarrage qui était, voilà, partie d'un pays d'origine avec les repères, la culture, tout ce qui fait la vie en fait du pays d'origine. Et arriver en France, quelles ont été les difficultés et les avantages, ou en tout cas, quelles ont été les joies et les difficultés? Mesdames, s'il y en a une qui souhaite prendre la parole. En arrivant en France, voilà, quelles ont été les premières impressions, les joies et les difficultés?
Alors moi, c'est...
Cancou.
Moi, je suis arrivée en France le 13 juillet. Et c'était la nuit du 14 juillet. Alors là, c'était le premier choc pour moi. Le soir, ils nous ont dit d'aller. Il y avait des pétards. On est parti. Il y avait un endroit, il y avait des pétards. Alors les pétards partout. Moi, il y avait le feu. J'ai dit, mais il y a quoi ici? C'est la guerre ou quoi? C'était le premier choc que j'ai vécu, moi.
Mais c'est vrai qu'arriver le jour de la fête nationale, oui, on peut penser que c'est comme ça tous les jours. Juillet, bah, bien sûr, oui. Oui.
Tout le monde rigolait de moi et tout. Et j'ai dit non, moi, je m'ai caché. Je suis allé me cacher, mais quand ils font des pétards, ça y a le feu et tout. Moi, j'ai cru que... J'ai dit non. Je me suis caché déjà. Après, ils m'ont ramené au foyer. J'étais au foyer.
Bien dans le micro, s'il vous plaît.
Voilà, après, ils m'ont ramené au foyer. Ah, c'est vrai, moi, je pleurais. Et ils ont cru que... Voilà, j'ai rigolé, mais moi, j'ai pleuré. J'étais choqué et tout. Bon, ça s'est passé. Et en même temps, mon mari, il était dans un foyer. Un foyer sur un contrat. Des toutes petites pièces là, une chambre et un lit d'une personne, ça aussi ça m'a choqué. J'ai dit mais comment vous vivez là ici? Ils disent la France et ici la France. Moi j'étais choqué aussi de ça, le lieu d'habitation. Bon, après petit à petit j'ai commencé à m'habituer un peu, mais vraiment j'étais choqué.
Vous étiez choqué, pourquoi? Parce qu'est-ce qu'on vous avait dit de la France avant que vous arriviez?
Bah c'était bien, le peu qu'on m'a dit. C'était bien parce que je suis venue un peu précipitamment. Je ne me suis pas préparée à mon arrivée en France, quoi. Et c'était pas ça. Et on était dans cette chambre-là, nuit et jour. Moi, j'ai dit, mais les gens ne sortent pas ici. C'est ici la France. Dans le foyer, on sort de la chambre. Il y a la salle pour manger, il y a la cuisine. Tout tournait autour de ce foyer-là, quoi. Pour moi, j'ai dit non. Et monsieur partait au travail le matin. Il venait que le soir, il ramène sa gamelle. Lui, il restait toute la journée. Il vient le soir. Moi, j'ai dormi, je me réveillais, j'ai dormi. J'ai dit, ça m'a choqué. J'ai dit, c'est quoi cette vie-là? Et j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré, moi, quand je suis arrivée en France. Je voulais retourner dans mon village. J'ai dit, c'est mieux chez moi. Bon, ils sont beaucoup moqués de moi, mais j'ai eu du mal quand même. Ça resterait toujours. J'ai raconté à mes enfants, j'ai raconté. Ça m'a choqué. Voilà. Et pour vous, l'enfermement, là, c'est ça qui m'a choqué, quoi.
Voilà. J'ai le même souci comme elle pour l'enfermement. Mmh. Parce que moi, où j'habitais, je viens de la Casamance, donc on habitait dans un village, donc il y avait beaucoup d'espace, énormément de verdure. On était très libre, on sortait comme on voulait. On arrive en France, déjà, on voit que des immeubles, très peu de verdure, et on se sent enfermé, en fait. On n'a plus d'espace, on n'a plus cet espace-là pour circuler. On va à l'école, on rentre à la maison, et puis voilà. Et le soir, il ne se passait rien, parce que moi, dans mon village, le soir, on avait l'habitude d'être autour du feu, mon père nous racontait des histoires, des contes et tout. Et là, on arrive, et télé, école, voilà. Et donc, moi, je pleurais, je me rappelle, j'ai réclamé de rentrer au Sénégal.
Moi aussi, c'était pareil.
C'est intéressant, ça, cette notion-là. Mmh. Vous, mesdames, comment ça s'est passé pour vous, du coup, les premiers moments, les premiers instants? Est-ce qu'ils ont été difficiles ou au contraire, il y avait les joies qui allaient avec? Comment ça s'est passé pour vous, notamment Maguette?
Oui, je suis venue ici, c'était 82, c'était mois de décembre. Il y a des neiges partout. Il y a des neiges partout, il y a des oh là là. Comment il y a beaucoup de glace partout? Afrique déjà, comment il fait chaud là-bas? Il n'y a pas de glace là-bas pour qu'il boive. Ici, il y a de glace partout, par terre, partout, il y a de glace partout. Il m'a dit que non, ici, c'est comme ça. Il y a quelques mois, deux mois, trois mois, il y a de glace. Il y a des neiges qui tombent, il y a des neiges partout. Mais je n'ai pas laissé longtemps là, parce que c'était appartement, c'était quatre pièces. J'ai fait une semaine à la maison, mais après, comme on était deux femmes, il y a des enfants là-bas, plus là, c'était 10 ans, 12 ans. J'ai accompagné les enfants à l'école. On n'était pas loin à l'école. J'ai accompagné les enfants à l'école. On a fait un an dans l'Oise. Après, on est venu à Évry ici. C'était 83. Je vis normal. Ça va.
Vous, c'est vraiment la neige au démarrage qui a été le choc.
C'est la neige. Il y a des neiges partout. Il y a des glaces partout. Afrique, il n'y a pas de glace là-bas pour boire. Ici, il y a des glaces par terre, partout.
Du coup, excusez ma naïveté, mais vous n'aviez jamais vu la neige avant d'arriver?
Non, Afrique, il n'y a pas de neige là-bas. Mali,
jamais vous n'aviez
on
vu.
Connaît pas les neiges.
C'était la découverte.
Oui, on ne connaît pas de neige. Avant, il n'y a pas de télé là-bas. C'était radio.
Non, mais c'est vrai, voilà, exactement. Et Kankou derrière qui dit, mais pareil, les pétards, c'était la découverte, quoi. C'était. Voilà.
On n'a pas vu les neiges. C'était radio. On écoutait ici, mais on n'a pas vu les neiges. C'est avant, il y a des télés là-bas maintenant, mais avant, il n'y a pas de télé. C'est que les radios, on écoutait radio. Pas vu les neiges. C'était, il m'a choqué. Première fois, c'est les neiges.
Philly, Dieti, si vous voulez nous parler des premières impressions, en tout cas, de comment ça se passe. Très bien.
Bon, moi, quand je suis venue. J'avais pas ce choc-là. Le choc que j'avais, mon mari ne me laissait pas sortir. Je pouvais faire un mois à la maison, je n'ouvrais même pas la porte. Quand il part au travail, il ferme la porte à clé, il part avec la clé. Donc, c'est ça qui m'a choqué. Donc, pour la première fois, la femme, quand c'est venu, la famille qui m'a accueilli, donc, c'est parti, je courais, c'est parti chez eux, je voulais retourner chez moi. Et j'ai tout fait, ils n'ont pas voulu me faire retourner. Donc, c'est ça qui était mon choc. Après, quand j'ai eu les enfants, pour accompagner les enfants à l'école, j'avais pas droit de sortir. Donc, c'était ça que... J'avais pas connu la France quand, après que je suis séparée avec lui, que j'ai eu ma liberté.
C'est étonnant parce qu'on pourrait imaginer, ou dans l'inconscient collectif, peut-être on pourrait se dire, ben voilà, il y a un départ qui est choisi, déjà, on pourrait se dire qu'il est forcément choisi, et qu'il est pour une vie meilleure, comme je le laissais sous-entendre au démarrage. Et finalement, on se rend compte, à travers ces divers témoignages, que ben, c'est pas si facile que ça, de sortir de sa vie, de ses repères, et puis de s'installer ailleurs. Il y a l'isolement, il y a... parfois des chocs culturels, des éléments un peu perturbateurs. C'est en tout cas, moi, c'est ce que je retiens en tout cas de ce premier tour sur le premier choc culturel. Je voulais savoir un petit peu au niveau de la relation extérieure. Là. Tout à l'heure, Maguette et puis Philly, vous parliez de l'école, qui est aussi un endroit où finalement, c'est un des premiers endroits où finalement, au-delà d'être une personne qui vient d'Afrique, on est une femme, on est une maman et on est en contact avec, la société ordinaire, enfin avec tous les gens qui constituent une école finalement. C'est important ça, ce lien avec l'école, avec l'échange, avec les autres justement. je dirais les gens qui sont là peut-être depuis plus longtemps ou qui ont toujours été là ou peu importe, mais en tout cas, est-ce que c'est important ce lien et notamment qu'on peut trouver à travers l'école qui est d'aller rencontrer d'autres gens? Quelle importance ça a eu pour vous ce lien avec l'extérieur?
Oui, c'est important parce qu'au moins ça, tu vas, on va connaître d'autres gens, on peut changer le monde. Parce que moi, mon cas, quand j'accompagne les enfants à l'école, je ne voulais pas rentrer parce que c'était là qui était ma liberté. Donc, j'ai profité pour rester longtemps causer avec des voisines et tout, tout. Et une fois que j'ai rentré, jusqu'à quand je vais récupérer les enfants à l'école.
Souvent.
Donc, moi, j'étais contente pour y aller tout le temps à l'école quand même.
Ben oui, parce que c'est un élément, finalement, on est obligé d'y aller, mais finalement, c'est bien parce qu'on y croise du monde. Devant chaque école, de partout d'ailleurs dans le monde, je pense, il y a toujours des mamans qui restent à discuter. Enfin, oui. Dans toutes les écoles, mais vraiment dans toutes les écoles, une demi-heure, trois quarts d'heure, même une heure parfois, oui, après l'heure où on a déposé les enfants, il reste encore des mamans. Et là, pour le coup, toute origine confondue, toute personne confondue, de toute façon. C'est un lieu important, j'imagine, quand on est une maman, l'école, pour aller vers l'extérieur. Je me posais aussi la question, y a-t-il aussi une notion de communauté quand on arrive quelque part? Vous évoquiez tout à l'heure les foyers Sonacotra, où très clairement, les personnes qui habitaient étaient, j'imagine, il devait y avoir plusieurs Maliens, en tout cas, dans les foyers. La communauté, notamment sur la Madeleine, on voit qu'il y a des communautés également. J'imagine qu'il y en avait à Montreuil, il y en avait un peu partout, Beauvais même, et peut-être même, je ne connais pas Beauvais, donc voilà. Mais voilà, est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'on vient trouver à travers la communauté? D'ailleurs, est-ce qu'on la trouve, la communauté, quand on arrive quelque part? Et qu'est-ce qu'on trouve dans la communauté d'origine? Je vous en prie, n'importe qui prend la parole.
Mais moi au foyer, je n'ai pas trouvé quelque chose auprès de la communauté, puisque c'était des hommes. Il n'y avait que des hommes.
Ah oui.
Voilà, c'est... Après, il y a une autre femme malienne qui est venue aussi, un an après moi. Bon, après, on sortait un peu ensemble. Il y avait une femme qui habitait déjà à Gaillon, mais elle n'était pas au foyer. Je sortais aussi avec elle. Bon, on tournait un peu dans Gaillon. Un jour, on passait devant, je sais pas, un magasin. Il y avait une dame qui vendait des fils. Et on est rentré là-bas. Et cette dame nous a proposé qu'elle peut nous apprendre à tricoter. C'est comme ça qu'on a commencé à sortir un peu. On tricotait. Après, moi, j'ai déménagé de Gaillon juste à Aubevoie. Et c'est là que j'ai rencontré une personne qui m'a vraiment, vraiment aidé, qui m'a fait découvrir la ville et tout. Mais c'était une Française, une jeune fille française qui est venue un jour taper à ma porte. Comme j'attendais mon fils l'aîné à cette époque-là. Elle m'a dit, vous attendez un bébé, c'est quoi? C'est un garçon. J'ai dit, oui, c'est un garçon. Pourtant, j'étais à l'école au Mali, mais je n'osais pas parler le français. Je ne parlais pas le français du tout. J'avais peur même de parler.
Alors que vous l'aviez appris?
Oui, j'étais à l'école dans mon village.
Mais pourquoi vous aviez peur? Vous aviez honte, peur?
Oui, voilà. J'avais honte de j'ai dit, je parle mal. Parce que quand les Français parlaient, j'ai dit, mais comment ils parlent? Je disais qu'ils parlaient dans leur bouche. Ils ne parlent pas. On n'entend rien. Ils chuchotaient. J'ai dit, je ne comprenais rien du tout. J'ai dit, mais bon. Mais après, cette fille qui est venue frapper à ma porte... Elle m'a ramené des habits, elle m'a dit, elle avait un bébé, elle a dit, votre bébé c'est quoi? J'ai dit, c'est un garçon. Elle m'a ramené des habits, le lendemain encore elle est venue, et du coup avec cette fille-là, c'est elle qui m'a fait découvrir en fait dehors, je sortais avec elle parce que j'avais peur, il n'y avait pas de noir à Gaillon, ni à Aubevoie. Quand tu sors, il n'y a que des blancs. J'ai dit, ah, il n'y a que des blancs. Il n'y avait pas de noirs. Moi, j'avais peur. Et quand tu sors, on te regarde. Il y en a qui venaient jusqu'à... Et moi, je fuyais. À chaque fois, je fuis. Ils viennent, ils prennent ta main, ils regardent comme ça. À l'époque, en 82, il n'y avait pas... C'était pas comme ça, hein. C'était pas... Dès que tu sors là, il y a plein de noirs partout, non.
Ça dépend des endroits aussi, je suis sûr.
Oui,
que... Je suis sûr qu'au Aubevoie...
Ah oui, il y en avait si, pas y a une du commune... tout.
Non, ouais, voilà, c'est ça, mais je suis sûr qu'aujourd'hui, au Aubevoie, oui, ça reste quand même... Ah, bon, même s'il y a des gens qui... Non, je ne sais pas,
c'est
en fait,
pas pareil comme à Évreux.
Mais en tout cas, il y a des zones encore,
voilà.
Dans l'Arzac, par exemple, je dis ça parce que c'est des zones très peu peuplées ou qui ne sont pas très attractives.
Ouais.
je suis sûr qu'en vous promenant, vous ouais. pourriez être encore la seule noire. Hein. Mais aujourd'hui, ça passerait peut-être autrement.
Oui, mais à Aubevoie, c'était ouf. Les hommes, ils étaient enfermés dans le foyer. Ils sortaient, ils vont travailler, ils rentrent. C'est tout. Surtout, il y avait une gendarmerie en face du foyer. Il y avait plein de sans-papiers. Ils avaient peur. Ils sortaient, ils rentraient, ils ne sortaient plus. J'étais enfermée là-dedans. Moi, j'avais peur. Mais cette fille, elle m'a fait sortir. On allait à la PMI ensemble. On allait dans les bric-à-brac, comme le secours populaire, des trucs comme ça. Elle m'a montré plein de trucs. Et du coup, j'ai commencé à avoir... confiance, j'avais plus peur, j'ai commencé à parler. Mais là, c'est parti. C'était parti après. Mais bon.
Maguette, vous vouliez réagir tout à l'heure. Je vous voyais avoir envie de dire quelque chose. Emparez-vous du micro.
Quand on était à Beauvais, on était à 3 km à Beauvais, petit village, il s'appelle Noailles.
Noailles, oui.
Noailles, oui. On n'était que des Africains là-bas, des étrangers là-bas. Oui, une Sénégalais avec nous, c'est tout. Il n'y a personne, il n'y a pas d'autre étranger là-bas. C'est tout petit village.
Et est-ce que dans ce village là-bas, il y avait aussi pareil comme Konkou, est-ce que vous avez peur de parler français? Ou vous parlez français normalement, ou c'était comment la barrière de la langue?
Ah oui, parce que tu accompagnes les enfants à l'école, vite fait, tu rentres, tu t'es dit 10 minutes école à la maison, ça fait 10 minutes, j'accompagne vite. On rentre, mais avec l'autre famille sénégalaise, on parle ensemble.
C'est okay, tout. Donc avec la famille sénégalaise, c'est vous parlez ensemble, c'est ça?
C'est tout.
Sinon, y a personne. Et avec là-bas. Les blancs, entre guillemets, vous ne parlez pas, non?
On parle bonjour, bonjour, c'est tout. Bonjour, on rentre à la maison, c'est tout. Parce qu'on ne parle pas trop avec les gens là-bas. Mais Beauvais, il y a des Africains là-bas, il y a tous les races là-bas. On était à 3-4 km à Beauvais, c'est tout petit village.
Pour les autres, comment ça se fait? Bah, peut-être oui, est-ce qu'au bout d'un moment, vous aussi...
Non, moi, je n'avais pas ce problème parce qu'à Montreuil, déjà, c'est le quartier des Noirs. Donc, je n'avais pas ce problème.
Et du coup, est-ce que vous avez trouvé auprès de la communauté le lien peut-être
Oui, parce que la famille de mon mari, ils sont tous presque à Montreuil. Donc, la maison, c'était tous les jours à remplir. Donc, je n'avais pas, j'ai pas connu ça.
Leonardo, éventuellement. Brigitte, peut-être différemment. Et puis, éventuellement, Jetty, si vous voulez nous raconter.
Ok. Pour moi, bon. Moi, je suis un passe-partout. Je m'adapte très vite, vu ma curiosité. Mais bon, quand on parle de communauté, je suis arrivé à Évreux. C'est vrai qu'à Évreux, il y avait beaucoup d'Ébissaou, Guinéens.
Mais la communauté Mandjak est assez représentée sur Évreux.
Enfin, il y avait la communauté des Mandjak, mais la plupart des Mandjak d'Évreux, ils sont des Sénégalais. Ils ne sont pas des Guinéens. Et je suis arrivé ici, même à la mairie, on nous prenait tous pour les Sénégalais. Jusqu'à arriver un moment où je suis en tête même du mouvement, de dire stop aux Sénégalais. Je viens d'un pays qui a un drapeau, c'est la Guinée-Bissau. On peut remercier le Sénégal, on s'est servi du Sénégal pour arriver en France. Et là, basta. On lui dit merci. Les Bissau Guinéens, il est riche. Il y a eu même la guerre entre moi, je peux dire moi, et des Sénégalais, Mandjak, qui étaient présents à la mairie, surtout quand on a commencé la fête de fraternité. J'ai dit non. L'année prochaine, Guinée-Bissau, il y aura son stand avec ses traditions et tout ce qu'il faut. On a ça, on a un pays. Sénégal, merci. Et voilà. Et on cherche la communauté, pourquoi? Bon, c'est compliqué. Nos enfants, aujourd'hui, bon, ils trouvent pas mal de défauts. Des gens parlent mal, des autres, on peut se faire du mal, on dit tout ça, quoi. Mais pour nous, être en communauté, ça nous fait revivre le pays, le village. Parce que là, on se trouve, quoi. Tu vois, entre nous. Voilà, et c'est une richesse pour nous. Pour nous, si on arrive à sortir le bon côté. Parce qu'il y a de côté, comme partout dans le monde, qui a une mauvaise côté, quoi. Bon. Voilà.
Jetty, éventuellement sur cette notion de communauté, est-ce que la communauté a une importance? Est-ce qu'elle vous a permis, certaines choses ou pas?
Bon, moi je suis venu en France le 10 octobre 90. Mais quand je suis venu, j'ai trouvé à ma sœur. Donc ce souci-là, c'est pas ça. Donc c'est moi qui accompagnais les enfants à l'école, c'est rentré, donc il y a plein de Malais qui étaient là. Donc, c'est pas cette personne-là. Voilà.
Alors Brigitte, différemment, j'imagine que l'école, de toute façon, parce que vous êtes arrivée à 11 ans, c'est ça, si j'ai bien suivi, 9 ans, du coup, vous avez été scolarisée directement.
Oui.
Du coup, rapidement, plongée dans le bain, pas le choix.
Bah oui, c'est pas ça, le choix. L'idée. Pas le choix, ouais, il y avait vraiment pas le choix. Donc,
on sent presque une déception dans le pas le choix.
Bah oui, parce que, comment dire, quand je suis arrivée, l'école n'était pas mon lieu favori. Donc, parce qu'en fait, l'école, elle est complètement différente du Sénégal et puis d'ici. Donc moi, j'étais à l'école là-bas, j'ai fait le CP, le CE1, j'ai commencé le CE1 là-bas. Donc c'est complètement différent. Avant de rentrer en classe, on chantait l'hymne sénégalais, puis d'autres chansons. Et même l'enseignement, c'est complètement différent. On arrive ici, c'est pas du tout pareil. Donc on se range, on rentre dans la classe, on commence à travailler. Et même l'environnement, c'est pas pareil. Donc j'aimais pas trop au début. La première année était très difficile. La première année était un peu difficile parce que bah, par rapport à l'environnement, en fait, c'est l'environnement qui me gênait. Mais au niveau de la langue, j'avais pas ce problème. Et ce que disait Kankou tout à l'heure par rapport à la honte de parler français, au Sénégal, il y a le même problème. Hein. C'est souvent les filles, elles ont honte de parler français à l'école. Donc souvent, elles parlent Wolof, Wolof, Wolof. Et les garçons parlent français. Moi, j'ai eu la chance d'avoir plein de frères à la maison qui me parlent en français. Donc du coup, j'ai pas eu ce souci-là. Mais souvent, les filles au Sénégal, elles parlent très mal français à cause de ça parce qu'elles ont honte de parler. Et du coup, elles apprennent pas. Et voilà.
Très bien, je vous propose, on me fait signe de partout, une courte pause musicale, histoire qu'on réorganise notre plateau et puis qu'on poursuive cette discussion parce qu'on est loin d'en avoir fini, bien entendu. Monsieur Malin, musique ?
Son bleu tapis aux branches qu'elle aime son rouge. Qu'est-ce que je vois au loin dans cet endroit pour qui bouge? Peux-tu me dire ce qu'il se passe? Qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton lard est blanc, ton costume bleu et tu vois rouge. Quand tu me crois, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe? Qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, on dit tout haut, c'est que les jeunes des ghettos pensent tout bas. Les fachos et les mineurs et les renois, c'est vrai. Certains me diront que c'est une banalité. Mais en attendant, beaucoup de nappes se font tuer. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Si je vois un facho devant moi, obligé, faut qu'il bouge. Je me sers de mon micro comme je me servirais d'un ouzi pour éliminer le FN, le PN. À Paris. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, tes lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au loin dans cet drapeau qui bouge? Peux-tu me dire ce qu'il se passe? Qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton roi des blancs, ton costume bleu et tu vois rouge. Quand tu me crois, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe? Qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, la fleur de lys se fane. Cannabis, je fume. Ton emblème est sous les blâmes, car l'enjeu en est la thune. Ton système, je condamne à s'enliser dans la brume. Mourir dans la base d'un étang et à en embrasser l'écume. Des fois, je suis armé, mais je me défends avec une plume. Ce que j'écris sur le cahier, je le dis, je le vis et je l'assume. Roi Garçon Nixon anime les danses comme le veut la coutume. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, les lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au loin dans cet endroit pour qui bouge? Peux-tu me dire ce qu'il se passe? Représente une menace. Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton lard est blanc, ton costume bleu et tu vois rouge. Quand tu me crois, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe? Qui représente une menace? Mon frère de bas que je puisse faire surface. Oh, on dit tout haut, ce que les jeunes des ghettos pensent tout bas. Les fachos et les mines, les rebeux et les renois, c'est vrai. Certains me diront que c'est une banalité. Mais en attendant, beaucoup de nappes se font. Y'a trop de fachos, y'a trop de molabos. J'appelle tous les rebeux et les négros. Faut que l'unité soit ancrée dans notre peau. Les gré des morts, ils reviennent à la soupe. On pêche sur le micro comme des ragamots. Fin soldat, on ne fait pas de cadeaux. Bleu, blanc, rouge ne sont pas les couleurs de mon drapeau. Tes yeux sont bleus, ta peau est blanche, les lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je vois au loin dans cet drapeau qui bouge? Peux-tu me dire ce qu'il se passe? Qui représente une menace? Est-ce toi qui ne peux pas perdre la face? Oh, ton lard est blanc, ton costume bleu et tu vois rouge. Quand tu me crois, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe? Qui représente une menace? Pour que les je t'espère sur face. Primo, toi tu manges pas lui, c'est dégueulasse. Secondo, il y a des clochards devant le palace. Tertio, tu as le némo, la monnaie, tout s'efface. Quattro, de mépris, y'a trop de classe. Cinco, je mets et ce business me lasse. Trop tard, j'ai choisi mon camp, mon rang et ma race. Nous sommes tous égaux, mais la liberté s'efface. Tous au même niveau dans le conflit des races. Les yeux sont bleus, ta peau est blanche, que lèvres sont rouges. Qu'est-ce que je prends pour loin d'un, c'est un drapeau qui bouge. Peux-tu me dire ce qu'il se passe? Qui représente une menace? Est-ce toi qui ne veux pas perdre la face? Oh, ton noir et blanc, ton costume plus gay, tu vas rouge. Quand tu me croises, tu n'as qu'un seul souhait, c'est que je bouge.
Eh ben voilà, on discute, on parle et on oublie la fin du morceau. C'était Bleu, Blanc, Rouge de Raga Sonic.
Buenas tardes.
Tu parles espagnol?
Un poquito.
Et tu crois que tu m'impressionnes? Moi, je sais dire allons à la plage, monsieur Renard. Vamos a la playa, señor Zorro.
Principe actif, le mix des cultures.
Toujours à l'écoute de Prise d'Anthème, cinquième volet, je crois, c'est ce que vous
c'est
précisez.
C'est bien ça, j'y
sais. Avec comme proposition aujourd'hui, nous recevons des gens d'ici et d'ailleurs, et nous insistons sur cette thématique. Dulcinea, poursuivons, j'en perds le fil, moi.
Oui, poursuivons, pardon. Donc, dans cette première partie d'émission, nous avons un peu parlé de l'arrivée de chacun d'entre vous, vos premières impressions. Et donc maintenant, nous voudrions que vous parliez un peu de votre adaptation. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes adapté ici? Comment vous y êtes pris? Et qu'est-ce que vous avez dû sacrifier de votre culture africaine à votre arrivée en France?
Il n'y a pas de culture africaine. Chaque pays a sa culture.
Bim. Votre culture de votre pays, de vos propres pays, donc ici Mali, Guinée-Bissau et Sénégal. Qu'est-ce que vous avez dû sacrifier?
Moi perso, j'ai choisi à adapter ce qui me convenait. Ce qui me convient dans la culture française, il n'y a pas de problème. Moi, ce que j'ai sacrifié un peu, c'est par rapport à mes enfants. Parce qu'on m'a éduqué d'une façon que j'aurais aimé que ce soit comme ça par rapport à mes enfants. Mais ça ne peut pas. Donc je me suis rendu compte vraiment que si j'applique les mêmes méthodes, ça ne va pas se passer. Et donc voilà, je les garde pour moi.
Par rapport à l'éducation, il y a des points précis pour que ce soit plus clair pour les auditeurs et pour nous éventuellement, il y a des éléments particuliers autour de l'éducation?
Oui, ouais, il y a beaucoup. Beaucoup, énormément les différences, quoi.
Comme quoi?
Par exemple, moi, je n'ai jamais dit mon père, tu m'as.
Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que pendant la préparation de l'émission, ouais, nous avons préparé l'émission avec le groupe de jeunes, cette phrase est revenue. Ils nous ont dit, ils m'ont dit, on discutait, voilà, culture et tout, ils nous ont dit, mais JC, t'es fou, jamais on peut dire tu mens, enfin, c'est un truc qui est impossible. Et je dis, c'est vrai que c'est pas agréable d'entendre ce genre de choses, mais a priori, il y avait une signification particulière autour de ça.
Bon, moi ça, je l'ai dit simplement pour rigoler un petit peu. Moi, Dulcinea m'a dit déjà, papa tu mens, mais il l'a dit en rigolant. Et je me suis fait taper sur le doigt par rapport à mon oncle qui était à la maison. Il m'a dit, c'est pas comme ça que tu dois éduquer tes enfants. Ton enfant te traite de menteur, c'est pas possible. J'ai rigolé, parce que moi, c'est vrai, si j'ai menti Dulcinea, c'était pour jouer. Et elle a bien compris que je me mentais. Donc pour elle, c'était pas mauvais de me dire comme ça. Et je l'ai accepté, ça ne m'a pas compliqué la vie. Mais pour aller plus loin, je dirais, ce n'est pas question de dire mon tour ou pas. Parce que nous, on a... Ce n'est pas positivement que ce n'est pas très bien, mais on respecte les vieux. On dit, on a respect pour les vieux. Un vieux, être vieux, c'est un statut social, acquis d'avance. Et ça, on ne le retrouve pas chez nos enfants. Si je veux inculquer ça à mes enfants, dis pour respecter les vieux, ils les respectent, mais jusqu'à une limite. Parce qu'on sait déjà, à limite. Parce que les vieux, ils profitent de ça aussi pour faire enfants. C'est ce qu'ils veulent faire. Et les enfants d'ici ne l'acceptent pas. Mais nous, on contourne. On contourne, on ne les affronte pas. J'aurais aimé que les enfants d'ici, nos enfants, et ces trucs-là de contourner. Pour dire la vérité aux vieux, qui tourne pour le dire, voilà. peut-être pas raison. Mais ici, il nous regarde en face, il nous dit non. Et ça, on l'accepte parce que on sait franchement, on est obligé de l'accepter au début. Mais dès qu'on comprend, voilà, ça passe.
Mais pourquoi vous êtes obligé d'accepter?
Parce que si je dois, la méthode, moi, taper les enfants, je prends les chaussons là, tout léger là pour les taper. Moi on me tapait avec le bois, avec il y avait, c'est pas le Martinique et
Martinique.
Il y a un truc, on dit, étant la main, tu prenais vent. On te met à genoux pendant longtemps pour te dire, c'est une éducation, une façon d'éduquer quoi. Que ce soit à l'école ou à la maison. Mais ici, on ne le fait pas. On est obligé de l'accepter parce que, bon, on n'est pas bête. On n'est pas bête. Hein. Vous pouvez dire que les parents ne comprennent rien, mais nous, on comprend, on réfléchit comme vous. On a notre intelligence à nous, qu'on a adaptée par rapport chez nous, on l'adapte encore par rapport à chez vous ici. Mais, parce que ça nous arrange aussi d'un côté. Parce que KFM, on ne veut pas que nos enfants soient des poupées. Pour moi, de mon côté, hein, ce ne sont pas des poupées, des marionnettes. Ils ont une identité, ils ont une force de caractère, ils ont tout. Mais il faut quand même la limite, quoi. Parce qu'à la maison, on n'a pas les mêmes, on peut pas avoir les mêmes droits. Parce que les devoirs sont différents. C'est moi, papa. Je prends soin de toi, mon fils. Donc, en contrepartie, vous me devez quelque chose. Et quand on parle, ouais, essaye de négocier. Voilà, on est obligé d'accepter parce que sinon, complètement, on perd nos enfants ici, quoi.
Et vous, mesdames, est-ce qu'il y a des choses que vous avez... il y a des dames timides ici. Est-ce qu'il y en a une qui veut prendre la parole pour parler à ce sujet? Est-ce qu'il y a des petits mots, par exemple, que vos enfants ne peuvent pas vous dire, que, par exemple, ici, passerait facilement? Des choses que vous avez dû sacrifier, que vous avez dû changer par rapport à votre mode de vie habituel? N'hésitez pas, ne soyez pas timide.
Oui, il y a des choses qu'on a, on était obligé de changer, de nous adapter. On s'est adapté en fait à la vie de la France en fait. Parce que moi personnellement, j'ai pas eu d'enfants en Afrique pour comparer comment il faut élever les enfants là-bas et ici. Mais j'ai vu comment j'étais élevée et mes sœurs, tout ça. Mais j'ai eu mon premier enfant ici. Mais il y avait des choses que je n'ai jamais acceptées. Quand on dit on ne tape pas les enfants, moi je n'ai pas accepté ça. On ne tape pas les enfants, mais ça dépend. Pour moi, en fait, j'ai dit à taper et taper. On peut corriger son enfant sans lui casser un bras, qu'il sort avec l'œil, je ne sais pas comment. Mais on peut. Hein. On peut corriger les enfants, mais pas... Voilà, pas faire du mal, non. Mais ça, de ce côté-là, je n'ai jamais été d'accord. J'ai éduqué mes enfants comme je pouvais. Et voilà. Et ça, c'est un... Hein, mais... On s'est adapté beaucoup, comme on amène les enfants à l'école, on va aux réunions des parents, professeurs et tout. Comment ils disent, on est avec des copines. Moi, personnellement, j'étais avec des copines françaises après. Alors, on parlait entre mamans, comment il faut faire, comment... Moi, je connaissais une... Je disais toujours à mon fils, ma copine française, elle gifle bien son enfant. Alors, il ne faut pas dire qu'on ne tape pas des enfants en France et tout. Elle a été giflée, donne des fessées. Mais bon, il y a tapé et tapé. Et que les enfants ne peuvent pas dire des choses aux parents, bon, j'ai jamais mis ça dans ma tête. On parle de tout, de ce qui est bien ou pas bien. J'ai toujours parlé de tout avec mes enfants. Et voilà, il n'y a pas des choses d'interdiction. Bon, ça vient naturellement. Hein. Les enfants, ils n'insultent pas les parents comme ça. J'ai vu des enfants le faire, mais je m'ai toujours demandé comment est-ce qu'on est arrivé jusqu'à ça, quoi. Que ton enfant t'insulte ou bien te dit des choses pas bien. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me suis jamais posé la question. Je me suis jamais inquiété que élever les enfants là-bas ici, c'est pas pareil. Pour moi, c'est pareil. C'est pareil, ça toujours, c'est pareil. Voilà.
Après, je dirais, c'est pareil. la ceinture, vous auriez dû la laisser en Afrique parce qu'on a bien goûté à la ceinture, nous.
On avait dit pas de dossier, Abdoulaye.
Non, ça, il faut le dire, honnêtement.
C'est dans les deux sens, les dossiers, Abdoulaye.
Non, ça, c'est quelque chose, il faut le dire. La ceinture, oui. On l'a bien goûté. Mais après, oui. J'ai envie de dire que c'est pas plus mal dans le sens où on l'a goûté pas pour rien. Uh-huh. Si on se faisait frapper, c'est parce qu'on avait fait une grosse connerie ou autre. Oui, c'est voilà. Pas parce qu'on avait renversé un verre qu'on allait se frapper. C'est ça, c'est... À part. Ah, voilà, on s'est corrigé. Voilà, c'est vrai. Très, très bonne intervention.
Voilà, corrigé.
C'est vrai, on se faisait corriger.
Corriger, oui, mais pas frapper comme on dit, frapper.
Non, voilà, c'est ça.
Voilà, jusqu'à avoir des hématomes, des trucs comme ça, non.
C'est la différence, justement, entre corriger, ce que vous appelez corriger, et la maltraitance.
Voilà,
il y a une différence tout de même.
Il y a peut-être des jeunes qui veulent prendre la parole. Edmond Gomis, vous pouvez lui passer un micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Donc tu voulais peut-être prendre la parole. Je t'ai vu réagir par rapport aux propos d'Abdoulaye, par rapport à la notion de correction et de...
Frère, il a raison. Il y a une génération qui a vraiment été corrigée par les parents. Après, aujourd'hui, ils sont peut-être fatigués parce qu'on les voit avec les petits-enfants, tout ça. Des fois, bon, ma mère, elle est grand-mère. La petite, des fois, a dit des choses et elle rigole et tout, alors que nous, c'était impossible.
Est-ce que
et
c'est
moi,
pas
je
non
reprends
plus...
derrière tout de suite, je laisse pas.
Mais est-ce que c'est pas non plus la notion de se dire qu'au bout d'un moment, le rôle de la mère n'est pas le même que celui de la grand-mère aussi, peut-être. C'est peut-être pas la fatigue, mais c'est peut-être le fait que c'est peut-être pas le même rôle, le même rapport, je sais pas.
Il y a la fatigue. Je pense que Edmond, il a un peu raison, il y a un peu de fatigue dedans. C'est pas seulement par rapport aux enfants, aux petits-enfants. Je vois par rapport à même à Dulcinea ce que disait son père. Moi, j'ai pas été élevée un peu de la même manière que Dulcinea. Dulcinea, elle a eu beaucoup plus de liberté que moi. Moi, quand j'étais jeune, vous parlez de communauté, moi j'ai jamais connu ça, donc je traînais beaucoup avec des Arabes, des Marocaines et des Algériennes, parce que je n'avais pas le droit de sortir, elles non plus, donc du coup,
Vous sortiez ensemble.
Voilà, on restait devant la cage d'escalier. Et puis même après, quand j'avais... parce qu'en France, à 18 ans, on est majeur. Mais chez les Africains, il n'y a pas de majorité. La majorité, c'est quand tu quittes chez toi, quand tu te maries, quand tu quittes la maison parentale. Et encore, et puis même, il y a toujours la notion enfant, parent. Il y a toujours ce respect-là. Donc, après mes 18 ans, quand je sortais, j'avais une heure pour rentrer. Dusnia rentre à l'heure qu'elle veut.
Je tiens à couper la parole à Brigitte car on avait dit pas de dossier. Voilà,
c'est
tout.
C'est vrai qu'on avait précisé voilà, qu'il n'y avait pas de dossier dans les deux sens. Edmond, pardon, on t'a coupé entre deux. C'était cette notion d'éducation, toi, où tu disais peut-être qu'avec le temps, il y a quelque chose qui.
Ouais, c'est vrai, il y a le temps. Il y a aussi les lois françaises aussi qui font que voilà, les parents ils sont obligés de lever la main, de plus, entre guillemets, communiquer. Et voilà, je sais pas si la loi française aide les parents à bien éduquer leur enfant, parce que on le voit aujourd'hui, comme il dit Monsieur Gomez, un enfant qui dit « ouais, tu mens à tes parents », il y en a beaucoup aujourd'hui. Avant, c'était impossible de dire ça. Même en rigolant, tout ça, on savait... Même en rigolant, en disant « tu mens », ah. On savait qu'on pouvait en manger une quand même.
Bah elle, tu voulais prendre la parole à ce sujet?
Oui, je voulais prendre la parole. Il n'y avait pas seulement le tumant, il y avait aussi quoi?
N'importe quoi aussi.
N'importe quoi.
Je me souviens du n'importe quoi.
Ah non, il y a des mots, ouais, il y a des mots que voilà, qui passent pas.
Laisse-moi.
Voilà.
Laisse-moi tranquille.
Moi, quand je vois des laisse-moi dans les films, j'ai envie de faire une crise cardiaque parce que le jour où je dis ça à mes parents, je crois que vous m'enterrez très vite.
Mais après, je pense qu'il y a aussi le fait que nous, on est nés en France, mais ouais, les Maghrébins, ils vont beaucoup au pays. Chaque été, ils rentraient, nous, on ne rentrait pas beaucoup. C'est genre, moi, j'ai été en Afrique 3 fois. Donc voilà, après, tu vois,
pour donner une idée aux auditeurs, quel âge as-tu?
J'ai 34 ans.
Voilà.
Ouais,
c'était pour resituer. Hein.
Ouais. J'ai été que 3 fois. Et en allant là-bas, on voit tout de suite comment c'est. Mais si on y allait plusieurs fois et tout, ce serait pas pareil. on verrait plus de choses et tout. Donc,
lien avec la culture d'origine qui est un lien à travers les parents ou un lien directement en lien avec le territoire, enfin in situ, quoi, être sur le site, quoi. Mmh.
Après, ce qui nous a...
C'est pas la même chose de récupérer une culture par éducation qu'une culture par vivre, ne serait-ce que des vacances régulièrement sur le site, quoi.
Après, ce qui nous a aidé ici, c'est que, voilà, on est dans une communauté, il y a beaucoup d'Africains, et quand on était plus jeune, dès qu'on faisait des bêtises, ça pouvait être
le voisin.
Le voisin qui nous corrigeait, tout ça. Aujourd'hui, c'est plus possible, ça. Moi, j'ai un gamin, il fait des bêtises. Oui, si mon voisin le voit, il corrige. Mais il faut pas toucher leur enfant. Mais avant, c'était beaucoup ça. Voilà, dès qu'on faisait des bêtises, si on se faisait voir par un cléon, une tante, un truc comme ça, on savait que quand on allait rentrer, on allait goûter. Bon, aujourd'hui, voilà. C'est pareil.
Ou Abdoulaye, je ne sais pas, un des deux, Bayal, c'était pour avancer, parce que le temps file à une vitesse aujourd'hui bien plus rapidement que d'habitude.
Il y a beaucoup de choses à dire.
C'est mais exactement. Bayal qui avait déjà une série de questions, ou Abdoulaye, au choix.
Moi, j'avais une petite question pour les dames et pour Monsieur Gomez. Ça fait plusieurs années que vous êtes ici maintenant. Vous vous sentez plus occidentaux ou africains au niveau culturel?
J'essaie de résister chaque jour, le matin au soir. Si j'écris justement le livre là où je essaie de comprendre la culture, c'est justement je veux exister. Je veux exister parce que comme j'ai dit tout à l'heure là, j'aimerais bien Jessie, si je dois être ami de Jessie.
J'y sais
qu'il m'accepte tel que je suis, qu'il ne m'impose pas sa culture. Tout ce qui est chez lui qui est bien, je le prendrai. Parce que je sais au moins, comme ça je peux m'approcher de lui. Alors si je sais ce qui est lui, et lui, j'essaie pas de montrer ce que je suis rien. J'essaie d'exister. Je sais que c'est pas facile. C'est pour ça que on pleure par rapport à nos enfants. On dit là, ce sont des naufragés, comme je les ai traités. Vous êtes des naufragés, pardonne-moi le terme, parce que vous savez pas, vous êtes naufragés à la dérive. Si c'est la rive sud, qui est de votre côté, ou c'est le nord. Et moi, j'évite. Je suis au milieu. Tout à l'heure, je disais que je suis divisé, mais bon. Le mot, c'était que je suis multiplié. Mais j'aimerais bien y exister, jusqu'à mourir. Donc je ne me sens pas plus français que Bissau-Guinéen. Je ne l'accepte pas. Je sais que... Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a d'un côté, quand ça me facilite la vie, je sais faire part des choses. Par rapport aux enfants déjà, j'essaie de me rabaisser, mais des fois, ça me coûte trop. Mais je l'accepte parce que je sais que ça m'arrange. Mais je suis au milieu. Guinéen et français.
Je dirais ma culture est plus française que sénégalaise. Parce que je ne connais pas trop le Sénégal. Moi, ce que je connais du Sénégal, je l'ai appris ici, chez moi et aussi par des amis. Donc ma façon de vivre, elle est plus proche, elle est plus française que sénégalaise.
Tu as raison. Tu as dit que tu es française plus que sénégalaise. C'est vrai. Même nous, maman, on a fait 32 ans ici, 33 ans ici. On ne connaît pas rien au Mali. Si on est parti au Mali, on ne connaît pas ni part. On ne peut pas partir tout seul. Ni part. Il faut qu'ils accompagnent à nous tout le temps. Parce que 32 ans, 33 ans, on est ici. Nous aussi, c'est pareil comme toi. On pense que les Français plus que les Maliens. Mais le problème des enfants, ça, on ne peut pas. Les coutumes de Mali, les coutumes d'ici, c'est pas pareil. Avec l'éducation des enfants. Les enfants d'ici n'écoutent pas. Comme c'est nous. Si nos enfants écoutent, ils ne disent pas, comme monsieur l'a dit, ils ne disent pas que ton père, Tima, maman, papa, Tima. Mais ici, les enfants, ils vont dire quelquefois, Tima. Ils ne pas fait exprès, mais comme ils ne savent pas que c'est ces mots que. Ça fait mal au cœur, nous, Africains, des mots-là. Ça fait mal au cœur, on a honte pour dire ça. Tu ne peux pas dire ça à ton parent. Mais c'est ça, parce que les enfants de nous, ils ne sont pas devenus africains, ils ne sont pas devenus françaises. C'est ça, on a les problèmes pour ça. Mais on ne peut rien faire parce qu'on est ici. Obligés, on va supporter. On est obligé de supporter les enfants. Mais quelquefois, quand même, il faut que tu dis ton coutume. Tu dis pas comme ça, tu parles pas comme ça, tu parles comme ça. te laissent pas comme les enfants des Françaises. On n'est pas même coutume. On n'est pas même... on n'est pas pareil. Quelquefois, il faut que tu parles de ton enfant. Quand il va arriver à l'Ébasson, un jour que s'il est parti au Mali, il va avoir honte. Parce qu'il va dire que les enfants, là, comment il est... On ne sait pas. Là-bas, il appelait des enfants de nous, il appelait comment au Mali. Il dit c'est français noir. Parce qu'il n'est pas devenu français. Il n'est pas devenu africain. On a un problème pour ça.
C'est intéressant ce que vous dites. Il y a ce côté, on n'est pas des vrais Français, mais on n'est pas des vrais Maliens.
Oui.
Et alors du coup, c'est difficile, j'imagine, de se sentir... parce que vous ne dites pas « je suis aussi française et je suis aussi malienne ». Vous dites « je ne suis pas une Française et je ne suis pas une malienne ». Ça doit être... Enfin, je ne sais pas comment... Ça doit être difficile. Enfin, je ne sais pas. Non, je ne veux pas dire difficile ou autre chose, mais c'est particulier comme positionnement de se dire « je ne suis pas vraiment française, je ne suis pas vraiment malienne ». Alors finalement, vous êtes vraiment quoi ? Je me permets.
Oui, non, des enfants.
Ah, les
enfants. C'est des enfants.
Les enfants.
Oui. Nous, les vrais Africains, nous, on ne change pas. On ne peut pas changer parce qu'on n'est pas né ici. On l'a fait longtemps ici, mais on n'est pas né ici. On ne peut pas les changer, on ne peut pas laisser de coutumes. On ne peut pas changer comme des enfants ici. Les enfants ici, ils sont nés ici. Ils sont grandis ici. Ils vont aller faire des vacances 3 semaines, 1 mois. Les enfants, nous, ils vont aller faire des vacances 3 semaines, 1 mois. Ils ne connaissent pas rien au Mali. Ils ne connaissent que d'ici. Mais des coutumes que il y a des coutumes maliennes, des coutumes africaines, des coutumes françaises. Il est mélangé.
Alors au vu, alors je me permets une réflexion comme ça, vous me dites ce que vous en pensez, mais au vu aujourd'hui d'une culture française qui n'est plus forcément qu'une culture blanche, enfin employant les mots, hein, c'est la culture française aujourd'hui, c'est une culture mixée par par les forces en présence tout simplement. Et là, je parle des Corses, des Bretons, des Sénégalais, enfin des jeunes d'origine sénégalaise, des jeunes d'origine maghrébine également. Aujourd'hui, peut-être. Justement, cette culture française, c'est peut-être ça, justement, la culture de vos enfants, qui est peut-être justement mixée. Je ne sais pas quel regard vous avez là-dessus, mais quand on parle culture française, peut-être on aurait rapidement un raccourci qui irait dans l'histoire, qui dirait la culture française serait une culture blanche. Certains remontent même au siècle encore d'avant et diraient qu'elle serait catholique et blanche. Vous voyez, enfin, c'est dans les représentations. Mais est-ce que finalement la culture française aujourd'hui, et du coup votre regard m'intéresse là-dessus, ce ne serait pas justement aussi la culture de vos enfants, qui est une culture mixée, qui est une culture finalement mixée, pas seulement par vos enfants, mais par toutes les personnes et aujourd'hui on serait plus sur de la culture mélangée. Je sais pas ce que... J'aimerais bien votre regard dessus peut-être parce que je rebondis sur ce que vous disiez.
Je ne sais pas, moi, de mon côté, je ne sais pas comment je peux définir ça, mais moi j'aurais dit qu'ils ont une culture intermédiaire. Parce que qu'ils veuillent ou pas, il y a ces côtés-là, notre côté, que peut-être on les impose. Si on ne sait pas, on les impose et à force de faire, finalement, quand ils ont un certain âge quand même, il se rappelle, voilà, il y a la culture de papa, ça m'a enrichi, en mélangeant avec la culture française. Bon, il devient plus riche que nous. Mais moi, ce que je dis au Kande, au Del, qu'il ne peut pas négliger ces deux côtés. Il ne peut pas. S'il néglige tout ça, il y aura des problèmes.
Alors là, on parle des jeunes, on les a autour de nous. J'ai envie qu'on les sollicite, là, pour le coup. On les a sous la main. Hein. On a Bayal, voilà, qui pose des questions. Il peut y répondre aussi, des fois. Abdoulaye également, Dulcinea, très clairement. Enfin, c'est de vous dont on parle. Hein.
Oui, tout
très
à
clairement.
Fait, on parle
vous, de manière très générale, d'ailleurs. Hein. Pas forcément vous individuellement, mais vous, de manière générale, vous vous retrouvez dans le discours des parents, des tontons, des tatas. Vous vous retrouvez dans ce qui vient d'être évoqué, oui. Là, ou vous avez un autre avis? Là, chacun prend la parole comme il veut, il n'y a pas de...
Oui, moi je prends la parole, moi je me retrouve totalement dans ce qu'ils disent. C'est vrai qu'ils nous ont inculqué certaines valeurs, une certaine culture, qu'on ne voit pas nous, par exemple, tous les jours à l'école ou quand on sort dehors. Moi, personnellement, j'ai grandi dans un quartier qui fait que, ouais, il y a beaucoup de monde autour de moi, il y a des Maliens, il y a des Sénégalais, il y a des Arabes, il y a de tout, et qui fait que je me retrouve un peu dans cette culture. Mais quand on sort, par exemple, de ce quartier-là, et qu'on se retrouve vraiment, vraiment dans la culture française, entre guillemets, là, je peux vous dire qu'on se sent vraiment étranger nous-mêmes. Pourtant, si moi, je vais en Guinée chez mon père aujourd'hui, ils vont me dire que je suis française, que j'y connais rien. Mais quand je vais, moi, par exemple, sur Caen, pour la petite histoire, quand je vais sur Caen, bah, c'est Dulcinea, bah, la Noire, Dulcinea, la, la.
C'est la, une la ville quand même, Caen.
C'est une ville, oui, c'est une ville, Caen. Mais je veux dire, il y a beaucoup. Quand je suis à Caen, je suis pas dans le quartier. Dans le quartier où tout le monde, on vit tous la même situation. Mais je peux vous garantir qu'en fait, nous, en tant que, qu'enfants d'immigrés, on a carrément le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'on n'est ni accepté dans un côté, ni dans l'autre. Si je dis à mon père que je suis africaine, il va me dire non. T'es pas totalement africaine. Si je dis à un français je suis française, bah non, t'es pas totalement française, tes parents ils sont africains. Donc comme dit mon père, on est un peu des naufragés, on sait pas en fait où on est, si on est dans le sud ou si on est dans le nord. Et c'est pas toujours facile, on se sent un peu perdu parce qu'on doit respecter les parents, on doit respecter leurs coutumes, mais aussi on a aussi un mode de vie, un certain on a un certain mode de vie aussi, une raison propre à nous qu'on voudrait respecter et qu'on voudrait suivre, mais qu'on peut pas par rapport aux parents. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus, Jessica, hein, je t'écoute.
Oui, je te rejoins. Et pour reprendre Madame Gakou, elle a totalement raison, parce que moi, je suis allée en Afrique et quand je suis allée là-bas, on m'a dit que t'étais Nababo, ça veut dire blanc, tu vois, que j'étais une blanche. Alors que quand je suis ici, on me dit que je suis une Africaine. Donc, ouais, c'est vrai, on sait pas où se mettre, donc... Je ne sais pas si on doit se refaire notre culture, notre propre culture. Déjà, je pense qu'on a notre propre culture et notre nationalité. Je ne sais pas trop si je suis française ou si je suis africaine. Je suis née ici, je suis d'accord, mais je ne suis pas acceptée en Afrique et je ne suis pas acceptée en France. Donc après, je ne sais pas si on devrait se faire notre propre monde, parce que dans les deux cas, on n'est accepté nulle part. Et après, nous, on s'impose, c'est vrai, mais c'est difficile, c'est très, très dur, parce qu'on n'est pas accepté. Même mon oncle qui est là, on a une association, il a créé une association, on en a fait partie, mais quand on arrive pour donner notre point de vue, c'est direct, les plus anciens nous disent quoi ? De toute façon, vous êtes des enfants de France, vous ne pouvez pas nous dire ce qu'on a à faire, ou voilà, on n'a pas on n'est pas respectueux comme eux, on n'a pas la même culture, on n'a rien. Alors que c'est ouais. Eux qui nous ont éduqués.
À leurs yeux,
quand
même. On n'a rien, c'est vrai.
Ouais. C'est... Voilà, on est nous. Je ne sais pas qui je suis, on va dire. Voilà,
pour reprendre ce que tu disais, pour eux, on n'est rien, alors que c'est eux qui nous ont éduqués. Pour la petite histoire, par exemple, moi, je ne parle pas bien de ma langue, la langue de mes parents. Je ne parle pas bien mandjak. Je comprends, mais je ne parle pas. Mais pourtant, mon père ne cesse de me répéter que c'est de ma faute, que je n'ai pas voulu apprendre. Sauf que non, c'est mes parents qui font l'éducation. Et moi, dehors, je parle français. Avec, en cours, on ne parle pas mandjak, on parle français. Et bah, pour eux, je ne connais rien, je suis bête, je ne comprends pas. Quand je croise des tatas dehors et qu'elles me disent... quand j'étais petite, par exemple, maman c'est tchoum, et je disais Ndje Mamech, c'est quelque chose de très grave. Elle s'est moquée de moi en rigolant, elle a continué à marcher, à finir la rue en rigolant, elle m'a laissée planter toute seule et j'ai un blocage depuis. Et pour eux, ils comprennent pas, pour eux, on est juste bêtes, on comprend pas. Tout comme effet inverse, nous on aime bien se moquer des blédards, ceux qui viennent, pour nous ils connaissent rien.
C'est alors oui, il voilà. Y a cette notion voilà, de blédard qui, a, voilà. qui est dans le vocabulaire d'ailleurs, des jeunes d'ailleurs, plus que des parents. Abdoulaye, sur cette thématique.
Moi j'aimerais ajouter un truc, la double culture c'est bien, dans le sens où, en tout cas nous, les jeunes de maintenant, on devrait prendre les bons côtés de la culture africaine et de la culture française. On devrait s'enrichir justement de ce que nos parents nous ont appris, de ce qu'on voit et surtout de ce qu'on vit. Que ce soit du côté africain ou du côté français, on va dire. Maintenant, moi personnellement, je suis né en Afrique. Vous pouvez me traiter de blédard si vous voulez.
Il n'y a pas de souci, c'est très bien.
Voilà, moi je suis né en Afrique, mais bon, je suis arrivé ici, j'avais un an. Donc on va dire que je suis né en France, quoi, on va dire entre guillemets. Voilà, moi, ma mère ici présente m'a toujours poussé justement à aller en Afrique. À l'âge de 15 ans, elle m'a payé mon premier billet justement. J'ai fait 3 mois là-bas. Et j'ai senti c'est quoi être un Africain. J'ai fait 3 mois où vraiment, au début c'était bien, je rigolais que ça, mais après c'était vraiment très long et très dur. Et là je me suis dit, ah ouais, c'est comme ça l'Afrique, ils vivent comme ça. Enfin, je me suis dit, voilà. Et depuis en fait, tous les ans je m'efforce de repartir là-bas, de par mes propres moyens, tous les ans, pour m'enrichir, parce que je me dis que c'est un devoir. C'est même pas il faut le faire, c'est un devoir. Chaque Africain ou autre, on se doit d'aller là-bas, on se doit d'aller prendre des sources justement là-bas, de nous ressourcer justement dans notre pays d'origine, pour pouvoir justement avancer, ne serait-ce prendre les conseils qu'ils nous donnent, ne serait-ce ça, c'est très très important, parce que nous, ça nous permet de nous construire, ça nous permet de devenir ce qu'on veut devenir, et justement, ça nous permet aussi de nous consolider par rapport à la culture française qui est
pas vraiment adapté à nous, dans le sens où voilà, tous les jours on en entend, soit à la télé, à la radio ou autre, les immigrés, les étrangers, patati patata. En entendant justement ces conseils que nos parents nous donnent, ça nous permet de consolider et se dire, ok, vous avez beau dire ce que vous voulez, moi je suis là, je reste, on m'a donné la carte d'identité française, je l'ai, je suis français. Quand je vais en Afrique, on a beau dire que je suis un blanc ou autre, je viens de... mes parents sont noirs, mes parents sont je sais pas moi, arabes, mes parents sont africains. Donc on se dit, mes parents m'ont appris ça, donc je m'en fiche de ce que vous dites ou ce que vous pensez, je suis ce que je suis. Tout simplement.
Oui, la culture quand même, elle prend sens aussi dans le regard de l'autre. Enfin, j'entends ce que tu nous dis, ouais. Abdoulaye, et c'est intéressant là pour le coup de positiver justement cette double culture en disant je prends le meilleur, je m'enrichis mutuellement. Mais sa propre culture, on la fait vivre aussi à travers le regard des autres, de ce qui est renvoyé chez les autres. Et là pour le coup, dans les échanges qu'on avait, c'était plutôt à travers le regard de l'autre que c'était plus difficile à construire.
C'est sûr.
On a besoin d'une approbation dans le regard de l'autre pour se construire, dans le regard des parents, ouais. de la culture ouais. d'origine, ouais. dans le regard du lieu où on vit. C'est comme ça aussi qu'on se construit.
Elle peut être
intérieure, mais elle est validée entre guillemets à travers le regard de l'autre.
Ouais, que ce soit à travers le regard de nos parents ou à travers du regard des Français, on va dire. Voilà, nos parents, quand on fait quelque chose de bien pour eux, ils nous le disent. Ah, c'est bien, ah, c'est. Et ça nous. Voilà, ce qui nous permet de. On se dit, ah, on est valorisé, quoi. On se dit, ah, ben voilà, ma mère, elle dit ça, ben c'est bien. Mais par contre, des fois aussi, des Français nous disent, c'est bien ce que tu fais. Quand on va loin dans les études, quand on a un bon travail, quand on fait quelque chose de bien, on nous le dit. C'est bien, c'est très bien, etc. Et ce qui fait que justement, on se sent concerné par ces cultures. Donc la double culture, moi, pour moi personnellement, c'est quelque chose de très, très bien. Très bien.
Bayal, parce qu'il y a une question, tu avais une liste de questions toutes plus intéressantes les unes que les autres. Nous sommes pris par le temps, il nous reste un quart d'heure devant nous. Vas-y Bayal, c'est ton quart d'heure américain.
Ouais, moi j'avais des questions pour les mamans, même pour Leonardo et Brigitte aussi. Si vous avez des petits-enfants, est-ce que vous continuerez à tout faire pour qu'ils gardent cette culture en eux, c'est-à-dire votre culture africaine, malienne ou mandjak? Continue-t-il à parler votre langue chez vous et à manger vos spécialités de vos pays?
Sur les petits-enfants, c'est-à-dire la troisième génération, sur la troisième génération, est-ce qu'il y a un regard là-dessus? Ouais.
Si, mais bah
moi, personnellement, côté culture, pour moi, toutes les cultures sont bonnes à prendre. J'ai pas spécialement, je ne vais pas spécialement imposer une culture à mon enfant. Moi-même, je ne m'impose pas de culture, je me sens partout où j'y vais. Parce que j'aime toutes les cultures, donc là-dessus, j'imposerai aucune culture à mon enfant. Par contre, la langue, j'aimerais bien qu'elle parle ma langue, même si moi, je ne la parle pas très bien. Mais j'aimerais bien qu'elle la parle. Parce que je trouve que c'est quand même important. Une langue est importante parce que c'est ce qui te permet de communiquer avec autrui. Donc si tu ne parles pas ta propre langue, donc c'est difficile de... Voilà, donc pour moi, la langue, c'est important. Et j'aime pas trop la notion de dialecte. Parce que voilà, pour moi, il n'y a pas de dialecte, c'est des langues, même si elles ne sont pas écrites.
Bon, moi, c'est impératif. Mais est-ce que je vais arriver à le faire? C'est ça le problème qu'on impose. Déjà, chez nous, quand on mange trois fois de suite, après, il y a l'engueulade, quoi. Toujours du riz, du riz, du riz. Et moi, du riz, elle est bon le matin, le midi, le soir. C'est du riz. Et autre chose, OK. Comme je disais tout à l'heure, ça, ma culture. Je suis quoi? Je suis qui? Je ne peux pas mettre ça dans ma tête. Quand on va à l'encontre d'une autre personne qui est différente culturellement, il faut l'amener quelque chose. Nous, par exemple, on est venu en France, voilà, comme chez nous, quand on part avec l'objectif, on dit j'amène un sac à main, un sac à dos. Et l'idée, c'est d'amener un sac à dos en France et quand on va partir, on part avec une valise. Mais on sait que les années, la conjoncture économique, on est tout le temps fauché parce qu'il y a trop de factures à payer en France. Bon, si c'est qu'on doit ramener aux gens là-bas chez nous, dire voilà, je suis parti chez les Blancs pendant 20 ans, 30 ans, qu'est-ce que je ramène là-bas? Si ce n'est pas l'argent, qu'est-ce que je dois ramener? Mes enfants, ce sont ma richesse, mes enfants, mes petits-enfants qui arrivent un jour au village, ils disent, voilà, les enfants de Leonardo. C'est que vous avez pris ici en France, grâce à la France, vous avez le devoir aussi de transmettre à vos cousins qui sont là-bas. Parce que nous, on est toujours divisés, il y a toujours la famille au bled. faut on ramène, on vous impose des frères qui ne sont pas vos frères, par rapport à vous. Mais nous, c'est toujours les frères et les sœurs. Donc voilà. Vous n'entendez pas, d'accord. C'est ça. Donc c'est important. Mais il faut d'abord que tu me ramènes ton enfant chez moi. Tant que papy. Voilà. Et nous, comme on dit tout à l'heure, mon chef Loulou, excusez-moi le nom Loulou, qui disait, des fois, il arrive un moment où la situation c'est tellement cansative, on fait trop d'efforts. Et après, on démissionne. On est fatigué. On laisse tomber. On vous laisse faire ce que vous voulez. Au rôle d'un parent, il ne faut jamais laisser tomber. C'est difficile. Parce qu'il y a des forces contraires qui sont là, les vagues, disons les vagues de la société. Parce que pour vous, hein, nos enfants, la culture française, c'est plus facile pour vous. Parce qu'il n'y a pas tant de... Chez nous, les manjacs, il y a trop d'aïman, il y a trop de primitives. Tu ne dois pas faire ça. Il y a trop. Et pour vous, c'est difficile d'accepter les enfants d'origine africaine. Donc la culture française, c'est plus facile. Par exemple, je vais porter un exemple, c'est un frère pensé. Chez nous, par exemple, on dit, bon, bah, j'ai un petit comme tout le monde, je l'adore, je l'aime bien. Je s'y entends très bien avec Dulcinea. Je sais qu'il peut donner une vie meilleure à Dulcinea. Je vais faire tout pour arranger. Même en secret, je dis, tout le monde, voilà, viens souvent à la maison. Je sais un jour, Dulcinea va tomber. Va tomber amoureuse de toi. Parce que je sais, c'est le fils que j'aurais aimé. Parce que chez nous, on dit, quand tu es un bœuf, tu le changes avec une vache. Et voilà, c'est un membre, il s'énerve, voilà, il change.
La vache.
Non, mais vache, c'est un terme, voilà, je ne dis pas. C'est une façon de parler, vous voyez. On fait ces petits arrangements en cachant, quoi. Parce qu'on sait, elle va lui donner les garanties que j'aurais souhaité, le bonheur. Je ne tiens même pas le compte de l'amour. Je dis, une femme finit, finalement, pour aimer son mari. Si son mari est correct, quoi. Au début, ça va être difficile, mais après, c'est notre mentalité, c'est notre façon de voir. Pour le Abledar, quoi, comme vous dites.
Voilà, c'est votre façon et moi je sais que ça m'arrivera jamais.
Et voilà, non mais.
Jamais.
Moi, je...
D'accord avec toi.
Voilà. Okay. Vous voyez ? Mais c'est tout ça, mais on peut pas. Mais c'est par rapport à la culture, c'est ça. On aimait bien que vous gardiez côté votre identité culturelle. C'est très important. Sans ça, vous n'êtes rien. Du tout.
C'est peut-être alors plus dans ce qui pourrait être les traditions essentielles. Peut-être qu'il y a un regard plus particulier sur les enfants, les petits-enfants, des choses comme ça. Peut-être, je vois, Kankou, vous me dites oui de la tête, c'est de ce côté-là que vous trouvez voilà, le regard que vous portez sur... vous n'êtes pas forcément encore grand-mère, je ne sais pas, mais en tout cas...
Si, on est tous grand-mère.
D'accord, mais alors du coup... Ah, oui. Du coup
moi, je suis grand-mère.
Et du coup, est-ce que vous avez un regard aussi par rapport à la culture pour les petits-enfants? Est-ce que c'est important aussi pour vous?
Oui, oui, c'est important. C'est important, comme il a demandé, qu'ils mangent ce qu'on mange et qu'ils puissent parler aussi la langue. Même si à les enfants, ça n'a pas été trop le cas, mais bon, quand même, les petits-enfants, ils commencent à parler un peu. Bonjour ou donne-moi ça, par exemple, ça fait plaisir. Voilà.
Vous êtes sensible à ça, vous aussi, mesdames. C'est le genre de choses, voilà, qui viendraient des petits-enfants qui seraient sur lesquels vous êtes attentive. Voilà, si on peut faire tourner un micro. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on parle carrément voilà, de la troisième génération. C'est-à-dire se dire, voilà, est-ce qu'à la troisième génération, on peut encore se dire qu'il est important de garder des valeurs, des traditions, des cultures, enfin, des morceaux, en tout cas, de ces éléments-là.
Moi, je veux bien, en tout cas, si mes enfants ils me laissent leurs enfants, oui. Je veux leur éduquer comme je suis moi-même.
Kankou, vous vouliez ?
Non, j'ai visé que...
Dans le micro, et je crois que vous l'avez... Non, si, il marche, c'est bon. Il fonctionne très bien.
Non, j'ai visé que même pour les petits-enfants qui partent souvent au pays, qu'ils puissent partir souvent au pays.
Ah, permettre aussi qu'ils aillent au pays,
oui. Voilà, comme il a dit tout à l'heure, peut-être les enfants, ils ont, eux, nos enfants, ils n'ont pas eu cette chance-là d'aller souvent. On aimerait bien que les petits-enfants qui puissent y aller souvent avec leur maman, parce qu'ils ont commencé à y aller, bon, c'est important.
Il y avait une dernière question, Bayal, parce qu'en fait, on est à 5 minutes de la fin, on va commencer à conclure. On aurait pu passer le reste de la soirée à discuter, hein. C'est un pur plaisir. Bayal.
Oui, j'avais une question.
Avez-vous connu un certain racisme ou des réflexions mal placées du fait que vous êtes issu de l'immigration ?
Ah, il nous relance une émission d'une heure. Oh là là, en sortie, c'est abusif.
Non, mais.
Non,
mais
allez-y, la question est bonne, bref, la question bref, est bonne, bref, la question bref, est bonne, bref, on la prend.
Très bref, très bref.
Très brièvement.
Mais brièvement, on peut pas.
Moi, je vais dire, sur ces problèmes-là, je suis le premier à dire. Je suis quand même. Ça fait longtemps que je suis là. C'est lui qui trouve toujours l'excuse par rapport au problème de racisme en France. C'est une faiblesse. On ne peut pas empêcher les gens. On dit racisme, même entre nous, on est raciste. Entre nous-mêmes.
Ouais,
donc, la France, ils nous donnent pas mal de facilités. On a beau de dire, oui. Il y aura toujours les Français qui sont bien lunés, il y en a qui sont, je ne sais pas quoi. Mm. Mais ils nous donnent la chance quand même de se battre. Sarkozy, il est français, il n'est pas français. Il a été président de la France. Donc, à vous de se battre. Et à futur Obama ici. Donc, reste pas figé sur ses principes.
Ouais, je suis d'accord avec lui. Il a tout à fait raison par rapport à ça, Leonardo.
Avec ça.
Il faut pas Pour rester dos. Bloqué par rapport au fait je ne suis pas français, donc je ne peux pas avancer dans la vie. Ça, c'est dans la tête, ça, c'est dans la tête. Si tu veux avancer, tu peux avancer. Quelles que soient tes origines, ta couleur de peau, ton
nom. Est-ce que renvoie éventuellement des individus? Parce que c'est une réalité aussi de certains individus qui renvoient à autre chose.
Il y a des gens qui
L'idée, c'est de passer au-delà. De toute façon, ça empêche d'avancer que d'écouter.
Il faut avancer.
Ça change
pas. Envoyer des gens, peut-être
ces gens. Tu travailles, tu dis, tu piques leur boulot. Mm. Ils veulent pas faire autre chose. Tu arrives au travail, tu trouves là qu'il veut pas avancer. Un jour, au lendemain, tu deviens son chef noir. Il va te traiter de noir, qui devient son chef. Ça fait mal, je le sais. Mais aussi, chez nous, ils ont venu, ils ont commandé, ils ont posé, ils sont des chefs. Ils arrivent là, il y a pas mal de Fatou, Fatamata, les Maria, chez nous. Mais il faut, c'est la vie. Mais il faut pas rester figé. Les Français sont des racistes.
Puis il y aura toujours du racisme.
Où on va, il y aura toujours du racisme.
Ah oui, il y en aura.
Kankou, excusez-moi. Ouais, Kankou, et puis il y a la presse, c'est ça? Voilà. Kankou, vous vouliez ajouter quelque chose? Parce que voilà, avec Leonardo, vous avez parlé ensemble, et puis voilà, je voulais vous donner la parole.
Moi, j'ai pas trop compris la question, en fait. Ah, le racisme. Pour moi, le racisme, je peux dire que c'est quelque chose qu'il faut passer. Il faut pas. Enfin, on m'a jamais traité, en tout cas, de noir ou de j'ai fait ci, j'ai fait ça à quelqu'un. Non, je me suis toujours entendue avec tout le monde. Alors, j'ai toujours dit aux enfants, le racisme, il y aura toujours des racistes. Et vous aussi, les noirs, vous êtes des racistes. Ça, il y en a. C'est la vérité. Alors il faut essayer de réussir, de travailler, de ne pas faire des bêtises. Souvent, le racisme, ça vient des bêtises que les gens y font des fois. C'est ça qui rend les gens racistes des fois, à mon avis. Hein. Bon, plus haut, je ne sais pas. Mais voilà, il faut travailler, il faut bien étudier, il faut réussir. Voilà, comme ça, les racistes, ils n'auront rien à dire après. Voilà.
Je vous propose qu'on ait court. Du coup, Bayal, tu voulais reprendre la parole.
Toute dernière question.
Ah oui, carrément une deuxième question. Ouais, une dernière question à une minute de la fin. Bayal. Allez-y.
En termes de mixité par rapport au mariage, acceptez-vous votre enfant qui se marie avec une autre personne qui est différente culture ou différente couleur de peau?
Ma petite fille, elle est métisse.
Ah.
Voilà.
Non,
j'ai un café au lait et j'ai un café au lait à la maison. Alors.
Pourquoi Leonardo? Non, on va donner la parole en face.
Je ne peux même pas répondre à cette question-là.
On va donner la parole en face. Leonardo, il a
ouais, voilà. Ah, j'ai un café au lait à la maison. Ça y est.
Allez, je vous en prie, dites-le dans les micros. Dites-le dans les micros, du coup, que les auditeurs profitent.
La mixité, on ne peut rien contre ça. Moi, à mon avis, hein. Même si on ne veut pas, on
ah, je sais pas. Mais ça, c'est pas grave, hein. Tous les maisons, il y en a. S'il y a des métisses, ou bien ta sœur, là, des enfants métisses.
Ah oui.
Sa cousine, là, des enfants métisses. Il est dans la famille. Nous aussi, dans la famille de nous, on peut rien faire. On vit avec ça. Parce qu'on est français, on a la France ici, on vit avec ça. Ça, c'est obligé. On peut rien faire.
Et puis, je pense qu'à partir du moment que tu as quitté ton pays d'origine pour aller dans un autre pays, c'est que tu acceptes les autres. Donc, normalement, il ne devrait pas avoir ce problème de mélange, de mixité. Sinon, bah, tu restes chez toi.
Et tu vas chez toi et tu te maries avec ton voisin.
Exactement.
Jessica, oui, Leonardo et Jessica, okay, et puis on conclura juste là-dessus.
Moi, mon problème, je ne suis pas raciste. Mais j'ai des préférences. Je ne suis pas raciste et j'ai des préférences. Mon premier souhait, que ce soit ma fille, mes garçons, je dis toujours, je préfère d'abord qu'ils cherchent quelqu'un plus proche de moi, quelqu'un qu'on peut s'entendre quand on parle. C'est plus facile de parler quand on a la même culture, quand on parle forcément quand on dit culture, c'est la même mentalité. Là, on peut s'arranger des choses. Chez nous, la médiation africaine, on l'a perdue ici. Pour revenir un peu derrière, on parlait il y a des années déjà Évreux, le problème des assistantes sociales qui viennent chez nous pour régler le problème de couple. C'est un exemple. Hein, pour dire, ils arrivent pour eux, ils viennent pour arranger les problèmes de couple. Ils apportent plus de problèmes. Mais ils ne font pas pour la mauvaise foi. Ils font ça parce qu'ils croient. C'est qu'ils leur démarche, c'est dans le sens positif. Mais or, c'est pas ça. Parce qu'ils ne comprenaient pas notre culture. Voilà. Moi, ma fille, c'est que j'ai dit ma fille. Je dis même pas les garçons, il marie qui c'est qui veut. Qui c'est qui veut. Mais parce qu'il, lui, il disparaît jamais. Il est là. Il ne part pas. Il est là. Mais la fille, il s'en va, ils vont l'imposer des choses et il se perd. Donc c'est ça que j'ai dit, j'ai des préférences. Je vais donner un exemple. Ce que je suis contre, c'est que moi, je ne peux pas mettre dans ma tête, moi je suis chrétien, ou crétin si vous voulez, je peux me marier avec une fille qui a la profession musulmane, je ne vais pas l'imposer la religion catholique. Jamais. Qu'elle reste ce qu'elle est. C'est une richesse pour nous. Elle m'apprend des choses, moi je l'apprends des choses. Et c'est que je suis contre. Si un enfant à moi doit marier avec une fille musulmane, qu'on l'impose la religion musulmane, je suis contre. C'est vice-versa aussi. Ça, je ne veux pas. Parce que j'ai dit, les religions, c'est pareil. C'est le même Dieu. Donc chacun reste avec sa différence qui devient une richesse. Mais donc on veut imposer ma fille s'appeler, elle s'appelle Dulcinée. Si on dit qu'il va s'appeler Fatou, je suis contre. Mon fils, il s'appelle Antoine. Si on veut le mettre Mohamed, je suis contre. Chacun garde ce qu'il est. Et après, on s'apprend à se connaître, à se découvrir. C'est tout. Mais c'est ça mon problème.
Jessica, pour conclure, on ne relance pas derrière Bayal. Jessica.
Pour conclure ce que disait Monsieur Gomez, ils n'acceptent pas du tout. Même si c'est... moi, je parle de moi. Les Mandjak, entre Mandjak, si tu vas chercher, je suis désolée, un Lucky, c'est une autre ethnie, ça va être très, très dur pour eux, même s'ils parlent la même langue. Pour la fille, hein, je parle pas pour les hommes. Parce que à partir du moment où une fille quitte le nid de ses parents, elle va vivre chez son mari. C'est ce qu'ils disent chez eux. C'est comme ça, en fait. C'est la fille, elle part. C'est pour ça qu'ils disent elle se perd. Non, on se perd pas, on est toujours là. On a toujours la même tête, le même prénom, tout va bien. Ensuite, pour revenir à leur médiation, sachez que ça se passe à 7h du matin, oui, où ils parlent. L'enfant, bon, toi, t'es là, tu n'as rien à dire. Et les parents, ils sont là, ils parlent. Ils disent que l'enfant, il s'est perdu. Non, il faut le refaire revenir, etc. Il n'a pas à faire ça. Bref, il y a beaucoup de couples qui ont été brisés à cause des parents. Maintenant, pour les garçons, ils ont droit d'aller n'importe où. Hein. Ton fils, il a le droit de se marier à, par exemple, une Malienne, une Peule, une Américaine, une Brésilienne, il n'y a pas de souci. Parce que là, à partir du moment où c'est une fille qui rentre dans ta famille, bah, ton fils, il est toujours là, il reste près de vous, quoi. Et... pour ma part, au jour d'aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui n'acceptent pas. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup de métis, oui, il y en a beaucoup, même dans ma famille, ils n'acceptent pas. Ils auront préféré que leur enfant soit avec une personne qui fait partie de la même ethnie, parce qu'ils disent que...
Oui, tu as raison.
Oui, je sais.
Tu as raison.
C'est
vrai. On n'accepte pas. Tu as raison. Pour vous marier avec quelqu'un d'autre, ou bien pour amener des enfants métis, on ne souhaitait pas quoi.
Oui, je sais.
Ce n'est pas le choix de nous.
Oui, on
comprend. Ce n'est pas le choix de nous pour amener des enfants métis. Ce n'est pas le choix de nous pour marier avec quelqu'un qui n'est pas notre pays, ou bien notre famille, ou bien si on ne veut pas, on dit on ne veut pas.
Oui.
Ça, ce n'est pas notre famille, tu n'as pas le droit de marier avec ça.
Oui.
Tu as raison. Tu es d'accord avec
vrai.
Toi, moi-même, je vais faire.
Alors du coup, je me pose une question quand même, et ce sera là pour le coup, je suis obligé de relancer d'une question. Je ne peux pas m'arrêter là parce que j'ai un problème de compréhension. J'entends cette voix des parents, des tontons, des tatas, de vos parents finalement, vous les jeunes avec qui on a préparé cette émission. Mais alors j'ai envie de me poser la question. Est-ce que c'est cette même vision chez la deuxième génération, chez les plus jeunes, ceux qui sont autour du plateau, là, avec qui nous sommes. Est-ce que ça fait partie de cette même vision
oui
ou
non,
pas
hein.
On va essayer de ne pas se mentir, ce serait
non,
pas mal.
Et puis ce que disait Jessica, en fait, ça dépend vraiment. Tu disais l'exemple des Mandjak, c'est peut-être chez les gens de l'île de Djeta, mais chez nous, on se marie. Il n'y a pas trop ce souci de se mélanger. Non,
c'est vrai. Non, et me lancez pas. Ne me lancez pas un débat, on a déjà 5 minutes de retard. Ne me lancez pas un débat.
Est-ce que.
Oui, oui.
Moi, attends, j'aimerais juste répondre par rapport à la mixité. Et ça, c'est très important parce qu'eux, ils ont eu un mode de vie qui est différent du nôtre.
Les parents.
Ouais, parce que moi, quand je suis allé dans le pays de mes parents en 2010, j'ai vraiment vu d'où ils venaient, vraiment en Guinée, dans la forêt, où je me suis même demandé si les Portugais étaient arrivés jusque-ci, tu vois. Mais eux, en fait, à l'époque, quand ils avaient une maison, il y a la maison familiale, les enfants, en fait, les garçons, quand ils se marient avec une fille, qu'elle soit du village d'à côté ou pas, ils construisent sa maison juste à côté de la maison familiale. Donc ça reste un cercle. Et après, il y a une autonomie auprès de cette famille où les garçons vont cultiver, etc. etc. Donc c'est important de garder les garçons. Mais quand une fille, elle allait dans un autre village, elle allait dans une autre autonomie, on ne savait pas où elle allait. Donc les parents, ils étaient beaucoup plus vigilants par rapport à ça. Donc, ouais, voilà, il n'y avait pas le téléphone, il n'y a pas Internet, on ne se Skype pas, on ne sait pas vraiment ce qu'elle devient. Si la famille, elle était mauvaise, bah on. Comme il dit, on perdait un enfant. Donc après, en venant en France, ils ont gardé ça.
C'est les traditions, c'est comme ça qu'on construit une tradition, une façon de vivre.
Ouais, voilà. Mais ça, c'était en eux. C'est normal qu'ils aient gardé ça. Et ça, c'était encore plus flippant pour eux parce qu'en arrivant en France, il y a d'autres ethnies, il y a d'autres pays, il y a d'autres communautés. C'est encore plus un point d'interrogation pour les parents de se dire, ma fille, elle va partir. Eux, ils voient ça comme ça. Elle va partir dans une ethnie que je connais pas du tout. Et après, il y a aussi la barrière de la langue, comme ils disent. Si tu reçois ta petite fille, ta belle fille, et que tu peux pas communiquer avec elle, c'est compliqué. S'il y a des problèmes, après, on sait qu'il y a des folles qui prennent les enfants, qui disparaissent ou le contraire. On peut même pas discuter avec les parents d'un tel parce qu'on va pas se comprendre. Donc moi, par rapport à ça, je comprends parfaitement les parents, et si j'étais pas allé, je pense que j'aurais pas compris ça comme tel.
Pardon.
Donc du coup c'est vraiment lié à tout simplement un mode de vie.
Ouais, Laurence,
voilà.
Un mode de vie.
Ma question, non, on arrête Dulcina, il y a pas d'autres questions, on conclut là-dessus. Ma question est, je veux juste un oui ou un non, parce que parfois on reproduit des cultures. Alors la culture démarre sur une réalité, sur une façon de vivre, ce que tu nous expliques à l'instant, mais parfois elle est répercutée sans ce besoin, sans cette histoire, elle est juste répercutée par mécanisme, ouais, par transmission exactement, et elle n'a plus de raison. En deux mots, là, globalement, j'ai, je sais pas, 20 jeunes, 15 jeunes autour de moi. Est-ce que cette idée du mariage...
Seulement une minute par rapport à ce que... ma nièce, là, ma nièce, ça dit tout à l'heure, là, pour dire, bon, Jessica, nous, on n'oublie pas les choses, comme on devrait vous expliquer. Même chez nous, comme tu dis, hein, c'est pas seulement parce que les lekis et tout ça, quoi. Il y a des histoires anciennes qui comme on dit, hein, c'est transmis jusqu'à nous. Par exemple, même chez nous à Djeta, les femmes ici, hein, c'est en pagaille. Et nous, en Afrique, on voulait les femmes peut-être pour autre chose. On fait partie même des mêmes d'œuvre. Hein. L'homme qui a plusieurs femmes, c'est lui qui est costaud, il est plus, il est tout, quoi. Donc, si je pars demander une femme en mariage chez tes parents, par exemple, on me refuse de donner une femme. Même si ce n'est pas moi, je vais dire ça à mon fils. Fais attention parce que je suis parti demander un enfant à Kamaté et Kamaté ne m'a pas donné sa fille. Ça va arriver jusqu'ici en France. C'est un exemple. Hein. Les jours au lendemain, quelqu'un de chez vous il sort et va demander un enfant à moi ou de ma soeur ou de mon frère. On va se rappeler ce qui s'est passé. Même vous n'êtes pas né. Tu vois? Et tout ça, on a dans notre tête. On dit non. Tu vois? Et c'est ça. C'est pas bien.
Oui.
Surtout pour vous.
Oui.
Mais bon. À vous de se battre pour avoir...
Je comprends.
On va envoyer le générique, monsieur Malin, s'il vous plaît. Nous allons conclure là-dessus. On peut continuer à échanger hors micro, bien entendu, parce que, voilà, nous le savions dès le début qu'une heure et demie, en recevant 6 invités, avec tous ces thèmes qui sont essentiels, qui sont importants, serait mérité 3 heures d'émission. Peut-être un autre volet, qui sait, peut-être pas tout de suite dans la foulée, mais peut-être un autre volet où nous vous inviterons, pourquoi pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Léonardo, merci à Maguette, à Brigitte, Brigitte, à Philly, à Dieti et à Cancou. Merci beaucoup, vraiment. Deux petites secondes, Dulcina, ça va être à ton tour dans deux secondes. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu présent à notre invitation et d'avoir accepté d'échanger avec nous. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, je conclue là-dessus. Dulcinea, tu voulais dire ?
Non, je voulais juste dire merci aux jeunes aussi. Je te dessine de bah les jeunes. Merci à tous les jeunes d'avoir participé et d'être venus. On vous attend pour les prochains numéros avec plaisir.
Exactement. Je rappelle que pour réaliser cette émission, il y a une équipe qui a bossé, qui a réfléchi, qui a gratté des questions, qui a réuni les invités, qui a fait tout ça. Cette équipe, eh bien, c'était celle d'habitude de Prise d'Antenne, mais je vais la nommer. C'est bien entendu Bayal, Sarah, Pierre, Abdoulaye, Lionel et Dulcinea, bien entendu. À la réalisation, nous avions Monsieur Malin, et ça fait bien plaisir. Prochain rendez-vous de Prise d'Antenne, bon, on n'a pas encore de date, mais restez à l'affût, écoutez les podcasts. De toute façon, on est parti pour faire d'autres numéros, non ?
Tout à fait.
Voilà. Mille excuses à l'émission qui suivait derrière, Air Jamaica, à qui on aura mangé une bonne dizaine de minutes. Merci les copains, restez à l'écoute du coup, écoutez Air Jamaica, et nous on se retrouve très bientôt. Bonne soirée.